Mesdames, Messieurs, au nom des organisateurs des manifestations qui commémorent le bicentenaire de Jacques Rousseau, j'ai le plaisir de saluer ici M. Ordina, et c'est-à-dire au nom de la ville de la Chaux-de-Fonds, du Centre d'information du Jura du Châtelois, de la Société d'histoire et du Club 44. Il aurait été en effet peu convenable que ces manifestations se passent sans la participation active de M. Ordina, dont tout le monde connaît l'immense érudition, je n'ai pas besoin de vous présenter, et en particulier, tout le monde connaît les travaux qu'il a faits sur Rousseau et sur Voltaire. J'ai une communication à vous faire encore. Ces manifestations de commémoration se continueront en septembre par deux ou trois conférences qui seront annoncées normalement. D'autre part, M. François Maté a édité, bien édité aujourd'hui, sur une petite brochure qui s'appelle « Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau », brochure qui est en vente ici à l'entrée. Monsieur, nous réjouissons de vous entendre.
Merci beaucoup. Et là, je crois qu'il faut partir d'une légende qui est à renverser, comme beaucoup sont à renverser en histoire et en histoire littéraire. Cette légende, c'est l'identité de Voltaire et de Rousseau dans la préparation de la Révolution française. Vous rappelez la chanson de Gavroche dans Les Misérables, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et je vais vous rappeler ce qui s'est passé en France en 1912, lorsqu'on a célébré le deuxième centenaire de la naissance de Jean-Jacques. J'étais beaucoup trop jeune pour avoir vu ça de près, mais j'ai étudié la presse contemporaine. Des célébrations officielles avaient lieu à la Sorbonne et au Panthéon. C'était la Troisième République, une république assez radicale, comme vous savez, en France. Et à cette occasion, on avait uni les noms de Jean-Jacques, de Voltaire et des encyclopédistes, comme ils étaient tous d'accord pour ce grand mouvement de pensée qui se développait en effet en France et en Europe au XVIIIe siècle. Or, il faut que vous sachiez, c'est très important, que quand Jean-Jacques était de ce monde, il n'avait pas eu d'adversaire plus acharné et d'ennemis plus implacable que ces mêmes encyclopédistes avec lesquels on le confond aujourd'hui. Il y a donc là une espèce de quiproquo, enfin d'erreur sur la personne, et je voudrais essayer de vous montrer l'opposition fondamentale qui existait entre Jean-Jacques et les encyclopédistes, et en particulier entre Jean-Jacques et Voltaire. Alors voilà comment je vais conduire mon exposé. Je vais regarder la vie intérieure de Jean-Jacques. Je ne parle pas de ses errances, ses zigzags, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est son mouvement intérieur, jusqu'à une certaine date à laquelle va surgir dans sa vie cette opposition très violente de Voltaire qui ira jusqu'à des limites que vous ne soupçonnez pas. Bon, ben vous savez bien que Jean-Jacques naît à Genève en 1712, c'était une petite cité, à ce moment-là il y avait 20 000 habitants, je crois qu'il y en a quelque chose comme plus de 200 000 aujourd'hui, une cité entourée de murs avec des portes, qui est l'État qui aura son importance pour la suite. Il est citoyen de Genève, alors que vous savez peut-être que sur ces 20 000 Genevois, il n'y en avait que 1800 qui étaient citoyens de Genève, c'est-à-dire qui avaient le droit de vote. Les autres, l'immense majorité, on les appelait simplement les natifs. C'est des gens qui n'avaient pas le droit de vote. Bien, Isaac Rousseau, père de Jean-Jacques, qui est un technicien, vous savez, un artisan en chambre, enfin qui fait des montres, est un homme pauvre, entendu, mais il appartient à cette espèce de petite aristocratie républicaine, si bien que le fils d'Isaac Rousseau, est promis d'être à son tour un citoyen de Genève. Ce qui fait lorsqu'un critique très important de France aujourd'hui oublié, mais qu'on m'obligeait à révérer lorsque j'étais étudiant, il s'appelait Ferdinand Brunetière, écrit dans un texte sur Jean-Jacques, il était peuple de par ses origines et peuple au sens le plus fâcheux du mot, ben il se trouve que ce monsieur Brunetière se trompe. Ce n'était pas d'ailleurs l'unique fois où il s'est trompé. Je répète, son père était en effet pauvre, mais il était citoyen de Genève. D'autre part, on nous répète aussi, il n'a pas été élevé. Primo parce que sa mère a disparu 8 jours après sa naissance, et deuxièmement parce que le père était, comme on dit aujourd'hui, un farfelu. Reprenons les choses. Si, il y a eu deux présences féminines auprès de Jean-Jacques. Il y a eu d'abord une tante, la tante Gonfru, qu'il appelait la tante Suzon, et puis il y avait, si pauvre que l'on fût, une domestique à la maison, qui s'appelait Jacqueline, et que lui appelait Mamie Jacqueline. Il y a donc la tante Suzon et la Mamie Jacqueline qui s'occupent de ce petit enfant et savaient ses premiers pas. Le père, bon, on nous a dit qu'il était dromomane. Vous savez, quand on veut paraître cuistre, on dit dromomane, ça veut dire un homme qui a l'habitude de voyager. C'est pas vrai. Il s'est trouvé qu'Isaac Rousseau, comme un certain nombre de jeunes voix de l'époque, est allé à l'étranger, il est allé à Constantinople pour voir s'il n'y avait pas une situation pour lui plus aisée que celle qu'il avait à Genève. Nombreux étaient les Genevois qui à ce moment-là s'expatriaient. Et si tous ceux qui s'expatriaient provisoirement ou définitivement étaient considérés comme des schizophrènes, alors la ville en était peuplée. Ce n'est pas vrai. Il était, Isaac Rousseau, entouré d'une telle estime lorsqu'il s'est trouvé pendant 3 ans à Constantinople, que les Genevois de Constantinople l'avaient choisi, lui, comme si je puis dire, consul honoraire. C'est-à-dire, quand il y avait la communauté genevoise qui voulait faire quelque chose ou demander quelque chose au petit conseil de Genève, c'était Isaac Rousseau qui était chargé de faire cette correspondance. Bon, il rentre, il s'occupe de son petit garçon, et évidemment, on nous répétera toujours, mais c'était un homme déraisonnable, puisque Jean-Jacques Lunel nous raconte dans les confessions que son père, qui lui demandait souvent de lui faire la lecture pendant qu'il travaillait à son établi, l'avait un jour laissé lire presque toute la vie. D'abord, qu'est-ce qu'il faisait lire? Un roman corrupteur, non pas du tout, la vie des hommes s'illustrent le plus tard. C'est pas très drôle, mais enfin, vous voyez à quel point c'était sérieux. Et puis justement, puisque Jean-Jacques nous raconte qu'il est arrivé une fois que son père ne s'était pas rendu compte de l'heure qui passait, et qu'il s'était aperçu que le soleil était levé parce qu'on entendait tourner et crier les hirondelles autour de la maison, une fois, c'est justement pour ça que c'était resté dans le souvenir de Jean-Jacques. Lorsqu'il nous a parlé de son père à plusieurs reprises, il n'a pas parlé seulement avec cette affection qu'on peut attendre d'un enfant gentil, mais avec reconnaissance, en disant carrément que tout ce qu'il peut avoir de meilleur en lui, c'est son père qui le doit. Bon, ce père va disparaître lorsque l'enfant a 10 ans, disparaître, quitter Genève, hein. Il vivra encore 15 années, mais il s'est brouillé, enfin il a une difficulté, un procès même avec un certain capitaine en retraite, qui s'appelle le capitaine Gauthier. Il a l'impression que lui, le petit personnage, s'il passe en justice devant le capitaine Gauthier, il sera mal vu parce qu'un capitaine c'est plus important qu'un artisan. Alors il va pas bien loin de Genève, il va à Nîmes, enfin il quitte le petit. Alors il peut plus s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on va en faire du petit Jean-Jacques? Ben vous le savez bien, on le met à bosser verrier chez un pasteur, encore le pasteur Lambertier. Bon, là, il y a l'histoire de la fessée que va donner Mademoiselle Lambertier, mais ça nous entraîne en dehors de ce que j'ai à vous dire. Il s'agit de l'atmosphère dans laquelle cet enfant a vécu. Une atmosphère de puritanisme, une atmosphère de calvinisme, une atmosphère de christianisme vécu et sérieux. Vous savez, on peut essayer de donner telle formation à un enfant, puis le résultat est exactement contraire. Eh bien, ça va, au contraire, ça marche pour Jean-Jacques. Cette greffe chrétienne, comme dira Voltaire, prend sur lui. Puisqu'il a 12 ans, et quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut être, il sait ce qu'il veut être. Il dit, je veux être pasteur. Parce qu'il y avait du côté de sa mère un pasteur, c'est un grand-oncle, et il a l'intention d'être pasteur. Alors, représentez-vous bien, ce petit Jean-Jacques, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est un petit calviniste qui croit et qui veut être pasteur. Première coupure dans sa vie, c'est le 1er mai 1725, donc vous avez calculé, il a 13 ans. Comme on n'est pas dans la famille, il s'agit de lui donner le plus rapidement possible un métier. Alors on va le mettre chez un graveur. Je me demande pourquoi, du reste, on ne le met pas chez un horloger, puisque son père faisait des montres, un graveur. Nous savons que ce graveur était très jeune. Il s'appelait Ducommun. Il avait 20 ans. Très jeune pour un patron, il avait 3 ouvriers chez lui, et il les traitait comme il était d'usage de traiter les subalternes à ce moment-là, c'est-à-dire parfois même il les frappait. Alors rendez-vous compte qu'à partir de sa 13e année, Jean-Jacques est dans une atmosphère très différente de celle qu'il avait connue, soit auprès de son père, soit chez le pasteur Lambertier. Il va lire des livres, comme on dit, au-dessus de son âge. Il va emprunter des livres à une loueuse de livres de Genève, qu'on appelle la femme Tribu, qui aura des difficultés avec les consistoires, parce qu'elle traitait n'importe quoi à n'importe qui, pourvu qu'on lui donne les 2 sous du livre. Son père avait accompagné très souvent le petit Jean-Jacques le dimanche. Soit à Saint-Gervais, soit à Saint-Pierre, il le tenait par la main, il chantait les psaumes ensemble. Maintenant, je ne crois pas. Il se retourne ni à Saint-Gervais, ni à Saint-Pierre, et les camarades là, je crois que son père ne l'aurait pas accepté. Il est malheureux dans cette maison où personne ne l'aime, où il n'a personne à aimer, où il est traité durement, et il va faire un coup de tête très grave, vous allez voir, le 15 mars 1728, ce qui lui fait 16 ans. La ville de Genève, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait des portes. Et quand les portes étaient fermées, le dimanche soir, il fallait être un grand personnage pour les faire rouvrir. Plusieurs fois déjà, le petit Rousseau, de 15 ans, 16 ans, s'était attardé avec ses camarades à l'extérieur de Genève, si bien quand il est arrivé, les portes étaient fermées. Il devait donc attendre la rouverture des portes le lendemain matin, et vous imaginez, comme il habitait chez Ducommun, l'accueil pouvait lui faire Ducommun, l'accueil de Gif, lorsqu'il revenait comme ça si tard. Le dimanche 14 mars 1628, il revient trop tard aussi. Alors il décide de passer la nuit sur le glacis des fortifications de Genève, il ne devait pas faire chaud dans cette nuit du 14-15 mars, et le 15 mars au matin, il prend sa détermination. Il ne rentrera pas à Genève. Il va tourner le dos à Genève au sens propre et au sens figuré. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il a entendu parler à l'intérieur même de la ville de Genève d'un curé qui avait une certaine notoriété, qui s'appelait Benoît Ponvert, était curé de Confignon. Aujourd'hui, Confignon nous paraît tout près de Genève, à ce moment-là, ça faisait une certaine distance. Ce curé de Confignon avait une certaine réputation demi-ironique, demi-respectueuse. On disait qu'il tenait table ouverte et que les protestants qui acceptaient de se convertir au catholicisme étaient tout de suite très bien traités chez lui. Je ne voudrais rien dire contre la mémoire de ce respectable ecclésiastique, mais j'ai tout de même l'impression qu'il avait chez lui moins de zèle de confesseur et de convertisseur que de fierté de collectionneur. Il organisait des matchs avec ses confrères à celui qui obtiendrait le plus de rentrées, et il avait ce procédé de table ouverte, c'est-à-dire que le catholicisme se présentait chez lui avec un visage succulent. Alors Jean-Jacques va hésiter un certain temps, il ne sait pas ce qu'il veut dire, quoi, hein, et il va finir par aller frapper à la porte de la caverne aux bonbons, en annonçant à ce prêtre qu'il a l'intention de se faire catholique. Une conversion me paraît noble lorsque quelqu'un quitte ce qu'il estime être l'erreur pour passer à ce qu'il estime être la vérité. Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien de semblable dans ce geste du garçon de 16 ans qui quitte le protestantisme pour aller au catholicisme parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, pour voir ce qu'il arrivait, par goût de l'aventure, et aussi parce qu'il ne sait pas comment manger. Alors le curé est à la hauteur ou à la rondeur, comme vous voudrez, de sa réputation, le fait bien manger, et lui dit qu'il va l'envoyer auprès d'une ancienne protestante, devenue également catholique, qui habite à Annecy, qui s'appelle Madame de Varens. Le représentez-vous, ce Jean-Jacques de 16 ans, qui n'a encore jamais quitté Genève, et qui marche, car il l'a acquis forcément, à Annecy. C'est la première fois qu'il voit les montagnes d'un peu près. Il a le cœur battant en se demandant qui va être cette Madame de Varens. On lui a dit que c'était une baronne, c'est peut-être quelqu'un de très impressionnant. Enfin, il est ému et c'est, il nous le racontera, le jour de Pâques fleurie, comme on disait alors, c'est-à-dire dimanche des rameaux, qu'il arrive à Annecy. En arrivant dans les faubourgs de la ville, il demande où se trouve la maison de Madame de Varens, et on la lui désigne, et comme il avance dans la direction de cette maison, il voit un carrosse qui était au pied du perron, et une femme ravissante qui descend les marches. Il pense que c'est elle, il se présente, il est bien élevé, il tient son chapeau à la main. C'était un garçon petit, il ne sera jamais grand, avec un teint très bronzé. C'est curieux, ce jeune voix avec une allure d'Algérien et des yeux très, très lumineux. Alors il présente à Madame de Varens le petit mot d'introduction que lui a donné le curé de Notre-Saint-Vert, et il est très content parce que cette dame n'est pas du tout intimidante. Elle a 29 ans, elle est charmante, elle est blonde, avec des yeux bleus, enfin c'est le catholicisme qui continue à se présenter sous l'aspect le plus agréable. Alors Madame de Varens lui dit qu'elle ne veut s'occuper de lui, mais qu'elle ne peut pas le garder à la maison, bien sûr. Il faut d'abord qu'on le transforme en un catholique estampillé. Pour ça, elle l'envoie, Dieu sait pourquoi, du reste, à Turin. Je suppose qu'à Annecy, il devrait y avoir je ne sais quel séminaire, en fait, quoi que ce soit, qui puisse assurer sa formation catholique. Non, elle l'envoie à Turin, à l'hospice du Santo Spirito. Il nous racontera, Jean-Jacques, dans les confessions, quand il va arriver à cet hospice, il a fait, comme il dit, une belle défense. C'est-à-dire que les prêtres ont trouvé à qui parler, parce qu'il avait tout de même ses convictions protestantes, et qu'il a fait, s'est défendu très vigoureusement. Voyez-vous, je ne voudrais pas me risquer à de la psychologie, au-delà d'une psychologie élémentaire, mais il me semble, enfin, on peut le vérifier à ce jour, que quand on fait quelque chose que l'on ne doit pas faire, et que ce quelque chose réussit, on n'a pas de scrupules. Les scrupules viennent lorsque ce qui était mal ne réussit pas. Et s'il avait fait, c'était mal. Et ça réussit pas parce que c'est très désagréable. Hein. Chez le curé de notre convers, c'était à temps, on mangeait bien. Chez Madame de Varens, elle était ravissante, mais à l'hospice du Saint-Spirito, c'est pas drôle du tout, c'est une grande usine pour la fabrication des catholiques en Syrie, et j'ai l'impression qu'il est traité comme n'importe qui. Quoi. Si j'étais moins respectueux, je dirais qu'on a fait son éducation à la diable. En effet, il va sortir de là très rapidement, et quand il sort, on n'a pas les dates exactes, mais il semble qu'il est resté de près trois semaines. Quand il sort de l'hospice du Saint-Spirito, il est, écrivez-moi bien, il est sur le pavé de Turin. Il est dans une ville dont il ne connaît pas la langue, il n'a aucune relation à Turin, qu'est-ce qu'il va devenir? On a retrouvé au début de ce siècle, et publié en 1905, publié, vous allez voir, une feuille de papier blanche, sur laquelle Rousseau avait écrit « Jeunesse égarée », puis il n'avait pas fait de texte. Je suppose qu'il avait eu l'intention, à une certaine date inconnue de sa vie, de raconter ce qui s'était passé dans sa jeunesse égarée. Et bien, c'est certain que quand il était à Turin, où il a traîné pendant 2-3 ans, il tourne très mal. On le voit larbin occasionnel, clochard intermittent, et même à cause de ce qu'il a appris, de mauvais camarades qui étaient aussi du Saint-Pirito, la masturbation d'une part et l'exhibitionnisme d'autre part. Il est en train de couler, hein, déjà coule. Vous savez qu'il est allé chez le comte de Bouvon, puis ça n'a pas marché, il est allé chez la comtesse de Vercellis, et c'est la comtesse de Vercellis qui a fait une chose abominable. Cette chose abominable, nous ne saurions pas, nous ne saurions jamais, si lui-même ne l'avait pas dite. Raconter des choses sexuelles, c'est pas facile et c'est plutôt honorable. Mais raconter qu'on a été un voleur et un calomniateur, c'est infiniment plus grave. Ben, il l'a fait, hein. Il me l'a dit. Chez Madame de Vercellis, il avait volé un petit ruban d'argent, un petit bout de ruban d'argent, c'est pas quelque chose, enfin, il l'avait volé, et Madame de Vercellis s'est aperçue de ce vol. Alors elle avait fait fouiller, elle avait fouillé elle-même peut-être le petit bagage de ses domestiques, et elle avait découvert ça dans le petit bagage de Jean-Jacques. Alors pour ne pas être accusé de vol, il va faire une abominable calomnie, il va dire non, c'est Marion qui a des gains pour moi, mais je suis pour rien, qui me l'a donné. Ce n'est pas vrai, c'est lui qui l'avait volé. Par conséquent, cette malheureuse servante, calomniée, va être chassée à la rue, et vous imaginez ce que le destin d'une bonne chassée pour vol dans une famille convenable. Comme je vous le dis, il tourne infiniment mal, mais il a une chance. Il y a un prêtre assez différent de celui Benoît de Pontvert qu'il avait vu il y a quelques jours, et de celui qu'il avait subi à l'hôpital Saint-Pierrito, il s'appelle Jean-Claude Guême, qui va s'occuper de lui. Ce prêtre Jean-Claude Guême, c'était un mondain, forcément, puisqu'il fréquentait dans le salon de Madame Vercellis, mais c'était aussi un prêtre sérieux, enfin, qui croyait. Et voilà qu'il va demander à ce petit valet de chambre, Jean-Jacques, de venir lui parler. C'est déjà considérable, parce que dans un salon, les domestiques sont des robots articulés, on ne les regarde même pas. Hein. Tout à coup, je savais que Jean-Claude Guême avait repéré ce serveur, serviteur, comme vous voudrez, qui ne ressemblait pas à un serviteur, qui n'était pas rampant, qui se tenait bien, qui avait une certaine dignité, et il lui demandait de venir parler avec lui. Et là, Jean-Jacques est très ému de cette gentillesse qu'on lui fait. D'autre part, quand Stabé lui parle chez lui, comme ça, vous vous rendez compte que le prêtre n'est pas payé pour ça. Enfin, il n'est pas en chair, il n'est pas en train de faire son métier, sa profession. Il lui parle parce qu'il a envie de lui parler pour lui dire les choses qui lui tiennent à cœur. Et vous comprenez bien que ce que dit Stabé à Jean-Jacques, c'est la même chose que lui avait dit son père, que lui avait dit le pasteur Lambertier. Quelque chose qui commençait à se dénouer en lui, se renoue, une source perdue recommence à sourdre. Il n'oubliera jamais son Jean-Claude Guême. On sait à peu près ce qu'il lui a dit. Pascal était plus connu au XVIIIe siècle, mais j'ai l'impression que Jean-Claude Guême le connaissait, Pascal. Parce qu'il aurait dit à Jean-Jacques, mon petit, qui êtes-vous? Alors Jean-Jacques a dit, moi j'étais un petit curé de Genève. Si j'étais resté à Genève, j'aurais le droit de porter l'épée. J'ai fait une bêtise, une chose mal. J'ai quitté mon protestantisme pour l'université catholique par arrivisme, peut-être, enfin je sais pas. Et la prêtre lui dit, mais il ne faut pas être malheureux d'être valet de chambre. Parce qu'il vaut beaucoup mieux être un valet de chambre qui fait bien son métier qu'un duc épaisse qui ne fait pas le sien. L'important de la vie, ce n'est ni d'être glorieux ni d'être riche, c'est de suivre sa conscience, sa vie intérieure. Il n'oubliera jamais Jean-Jacques, et bien des années après, lorsqu'il écrira sa profession de foi du vicaire savoyard, c'est en secret à la ressemblance de l'abbé Jean-Claude Guême qu'il le dessinera, son vicaire savoyard. Bon. Alors maintenant, comme je disais à l'heure, je ne fais pas une biographie externe, je ne vais pas le suivre dans toutes ses errances. Il a quitté Turin, il a essayé de vivoter, il s'est mis à coquiner avec un camarade qui présente ce qu'on appelait alors une fontaine de guérons, qui n'était pas autre chose qu'une clepsydre. Il avait du goût pour la musique, alors il s'annonce comme professeur de musique, en disant qu'à force de m'enseigner, il finira bien par l'apprendre un petit peu. Enfin, on le voit de tous les côtés. Il est à Lyon, il est à Nyon pour aller voir son père, il est à Fribourg, juste à Lyon il est allé. Vous savez aussi ce qui va y arriver tout près de chez nous, enfin à Boudry, où il tombe sur un personnage avec une grande robe qui se donnait pour un archimandrite. L'archimandrite qui faisait, paraît-il, une quête pour le rétablissement du Saint-Sépulcre qui était à ce moment-là déjà en ruine. La quête de cet archimandrite, qui était tout en moi-même, était une quête purement personnelle, et Jean-Jacques ne se rend pas compte du tout qu'il est la proie d'un escroc. Alors il se constitue le secrétaire de cet archimandrite, parce qu'il fait un peu d'italien, mais l'archimandrite fait une erreur que vous connaissez, il va voir l'ambassadeur de France qui à ce moment-là. Et puis M. de Bonnat était à Soleure, ça il sait beaucoup plus tard que l'ambassadeur de France ira à Berne. Les ambassadeurs, je les connais pour les avoir fréquentés, ce sont des hommes qui doivent foncièrement et fonctionnellement se méfier. Alors l'ambassadeur, quand il voit cet archimandrite, il vient lui demander de l'argent, se méfie, il fait faire une enquête, s'aperçoit que c'est un faux archimandrite qui fait une quête personnelle, le fait arrêter par la police, et Jean-Jacques est arrêté aussi. Mais de même que l'abbé Jean-Claude Guême s'est intéressé au visage, au comportement, à l'apparence de Jean-Jacques, de même cet ambassadeur de France lui parle, lui demande qui il est. Et Jean-Jacques lui dit, mais je vous assure, je ne savais pas que c'était un escroc. Et l'ambassadeur comprend qu'il lui dit la vérité. Alors l'ambassadeur le retire des mains de la police et dit, je vais m'occuper de vous. Et voilà, Jean-Jacques est envoyé pour la première fois à Paris, il a 19 ans. Il est ravi d'aller à Paris, mais il s'aperçoit que ce que lui a trouvé l'ambassadeur comme emploi, c'est encore un emploi assez alterne, un emploi de valet de chambre, il ne veut pas, et il revient dans cette Savoie, où il était repassé plusieurs fois pour voir cette Madame de Varins qu'il n'avait jamais oubliée. Attention, elle n'est plus à Annecy, elle est à Chambéry. et un des ennemis les plus incandescents de Jean-Jacques, j'ai nommé M. Charles Maurras, de l'Académie française et de l'Action française en même temps. Charles Maurras avait dit, c'est maintenant, dans la vie de Jean-Jacques, sa période du gigolo d'Annecy. Premièrement, c'est faux, c'est pas Annecy, c'est Chambéry. Et deuxièmement, ce n'est pas que le mot de gigolo soit exactement de mon vocabulaire, mais enfin, je crois qu'on pourrait définir le gigolo. Un homme assez jeune qui procure à des dames moins jeunes des satisfactions réprimées. Moi, j'ai dit ça convenablement. Bon, eh bien, il ne s'agit pas du tout de ce que vous croyez. C'est pas vrai. Jean-Jacques va effectivement être pris par Madame de Varin chez elle. Elle l'avait enveloppé dans le regard connaisseur, c'était une personne dont les mœurs étaient assez libres. Elle a trouvé Jean-Jacques charmant. Elle avait établi un vocabulaire particulier entre elle et lui. Elle avait d'abord appelé Jean-Jacques, puis appelé la petite, c'est encore plus gentil. Elle lui avait demandé, lui, de l'appeler, elle, maman. Figurez-vous que quand Jean-Jacques dit maman, Madame de Varin, il lui dit comment, si je puis dire, bonjour, bon argent. Il la respecte, cette femme. Il la trouve très belle et il la trouve très gentille. Madame de Varin, c'est une convertie. En effet, sa maison est toujours remplie d'ecclésiastiques. Elle a un confesseur à domicile, un jésuite qui est sourd, qui arrange tout. L'évêque lui-même, l'évêque vient de temps en temps dans la maison. Enfin, cette maison religieuse est le vestibule du paradis, hein, pour Jean-Jacques. Par conséquent, quand il dit maman à Madame de Varin, il lui dit tout son cœur, comme si la Providence avait mis, je ne sais pas, quelqu'un pour remplacer maintenant qu'il est grand cette mère qu'il a perdue quand il était tout petit. Il faut que vous lâchiez, très important pour ma petite démonstration, qu'autant le petit Jean-Jacques protestant y croyait et voulait être pasteur, autant le Jean-Jacques catholique y croit et accepte d'être prêtre. Elle lui a demandé ce qu'il voulait faire, il dit j'aimerais bien être prêtre. Alors on l'a mis au séminaire, ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi, sinon que nous possédons le texte de ceux qui l'ont renvoyé en disant il est tellement bête qu'il n'est même pas capable de faire un curé de Cantal. L'Église s'est privé d'un bon collaborateur. Alors il ne sera pas prêtre, mais il faut que vous sachiez, peu importe ce qu'il fasse après, il va être chantre à la cathédrale, il va être petit fonctionnaire au cadastre, employé au cadastre à la municipalité. Ce qui m'importe, moi, ce qui vous intéressera, c'est que Jean-Jacques est un fervent. On a retrouvé et publié en 1905 des petites prières qu'il avait écrites quand il habitait chez Mme de Varins pour compléter ses prières automatiques que les catholiques ou les protestants disent chaque jour et qui souvent ne sont que du psychisme sur leurs lèvres. Pour lui, Jean-Jacques, il a l'impression qu'il veut bien lire ses prières qui sont traditionnelles, mais qu'à force de les répéter, on n'est plus dedans. Alors il a fabriqué des petites prières personnelles qu'il adressait à Dieu. Sans respect humain, il nous dira plus tard, dans ses confessions, que lorsque, comme je vous le dis, employé au cadastre, j'étais levé trop tôt et que le bureau n'était pas ouvert, il rôdait autour de Chambéry, je cite, « faisant ma prière ». Vous entendez ? « Faisant ma prière ». Donc c'est un Jean-Jacques très particulier, qui a maintenant plus de 20 ans, et qui est cependant cet adolescent fervent, chrétien, que je dessine devant vous parce que je suis sûr que c'est vrai. Il éprouve une grande joie avec Mme de Varins. Il l'aime, je vous l'ai dit, il la respecte, il est gentil avec lui, puis en fait il y a cette maison, c'est religieux. Mais ce bonheur, cette joie va se défaire, va se dissoudre en deux étapes. D'abord, c'est que Mme de Varins le respecte tellement, il s'aperçoit, il n'a pas fait exprès, que son jardinier, il s'appelait Claude Allais, vient de temps en temps la retrouver dans sa chambre. Alors comment fait-elle avec sa conscience, puisqu'elle se confesse tous les samedis? C'est une maman qui a un péché et ça le gêne. Mais ce n'est rien auprès de ce qui va se passer, vous le savez bien, M. Gilles Lemaître, dans ses conférences de 1912 sur Jean-Jacques, il dira « C'est un comique énorme, je ne trouve pas. » C'est bien ce qui va se passer. Madame de Varin, si vous avez questions sur sa vie sexuelle, il a 22-23 ans, elle lui demande où il en est, Jean-Jacques, rougissant, baisse les yeux et dit qu'il n'a jamais approché de femme, elle éclate de rire, et lui dit que c'est très dangereux et qu'il faut qu'il lui fasse, elle, son éducation sexuelle, et que rien naturellement ne sera changé, il pourra toujours l'appeler maman. Jean-Jacques est bouleversé, ses propositions à odeur d'inceste. Et il va mettre du temps pour se décider, mais tout de même, il ne peut pas l'humilier à ce point. Il lui a donné 8 jours pour se décider. Jean-Jacques sent bien que ce serait qu'un outrage de la refuser, alors il couche avec elle, mais il pleure, vous entendez, il pleure entre les bras de cette femme. Alors très rapidement, il va se fatiguer de cet amant morose et contrasté, elle va le remplacer par un garçon bien plus jeune, qui fait 7 jours comme ça, un peu plus jeune que lui, qui est un garçon coiffeur, qui s'appelle Vincent Reed, et lui, Jean-Jacques, afin qu'il ne tourne, en fait, il n'écoute pas trop près ses transports, elle va l'envoyer dans sa maison de campagne des Charnettes. Il faut savoir que Jean-Jacques est exclu. Hein. C'est un exil qu'on lui impose. Il est assez content, je crois, de ne plus assister à ce qu'il voyait. Mais les Charnettes, c'est quand même un exil. Plus tard, quand il racontera les choses dans les confessions, les vieux, Alors les charmettes se mêlent à la brume dorée de notre adolescence. Hein. Mais dans le moment, c'était pas gai pour lui. Elle lui a expliqué qu'il avait la poitrine faible et que le bonheur lui fallait bien, c'est pas vrai. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un homme pour tenir la propriété, alors qu'en réalité, il n'aura pas de responsabilité. Il s'ennuie à mourir. Et c'est là où Charmed, 23, 24 ans, que va se produire un déclic définitif, oui, définitif, dans sa vie intérieure. Quoi donc? C'est un garçon très peu instruit, hein. Vous avez vu que c'était en 1725 qu'il avait, qu'il était entré en apprentissage. Si c'est un garçon, un enfant de nos jours, français, on dirait il a son certificat d'études du primaire, hein, c'est tout. Donc c'est un garçon extrêmement peu lettré. Et ben voilà, que là-bas au Charmet, il va se passer quelque chose de très important. Il s'ennuie à mourir, comme je vous l'ai dit. Et il y avait un voisin, qui était un aristocrate, qui s'appelait M. de Convier, mais qui était un aristocrate qui n'avait pas de préjugés aristocratiques et qui n'avait pas le mépris de la rupture. Il avait trouvé ce voisin Jean-Jacques intelligent, il se présentait bien, l'avait invité chez lui et lui avait ouvert sa bibliothèque. M. de Congier avait une grande bibliothèque. C'est l'univers de la connaissance qui est tout à coup révélé à Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques a passé 20 ans, hein, et il a abordé ses connaissances autodidactes, tant que vous voudrez, mais il aborde ses connaissances avec un esprit déjà mûr. D'une part, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire un type remarquablement intelligent. D'autre part, j'y insiste, il va aborder la philosophie, par exemple. Non pas comme moi, et peut-être vous, vous l'avez fait dans vos classes, en répétant ce que le professeur disait, mais avec une intelligence personnelle, et il est impressionné, lui-même est ravi de la facilité avec laquelle toute cette connaissance entre en lui. Il se découvre intelligent. Tenez, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de Gargantua à table. Eh bien, je me rappelle avoir lu dans Gargantua quelque chose d'extraordinaire, en fait, très amusant, de ses trouvailles, comme dans Fourmis chez Rabelais, où il disait à Rabelais, en parlant du jeune Gargantua, il avait l'esprit, un fatigable esprit dans, comme est le feu parmi les brandes. Les brandes, c'est les branchages secs. Hein. Et bien, l'esprit de Jean-Jacques, travaillant dans cet univers de la connaissance qui lui est révélé, s'enivre lui-même de la facilité avec laquelle tout cela entre en lui. Alors, en même temps que ce que Mozart appellera le démon de la connaissance, entre en lui, il faut bien appeler le démon de l'ambition. Comment voulez-vous qu'il ait eu jusqu'alors une ambition? Il était ce petit garçon inculte. Et tout à coup, enfin, au bout de 2-3 ans, il s'aperçoit qu'il est calé. À ce moment-là, un esprit encyclopédique, une culture encyclopédique était admissible. On croyait qu'on pouvait tout savoir, comme Pic Galgandol. Jean-Jacques a avalé avec passion une connaissance considérable, aussi bien mathématique que physique, que géographique, qu'historique, et une religion qui pourrait peut-être ajouter, lui, personnellement, un livre de plus, relié comme il était à ce moment-là, avec des lettres d'or sur les couvertures de peau, à la bibliothèque de l'État, la bibliothèque de Congier. Il a envie, à ce moment-là, de réussir, de s'imposer, de déclic dans sa vie intérieure, dans son intelligence, qui produit là, au Charmet. Alors, comme il a maintenant une ambition, à laquelle il ne peut pas prétendre juste alors, il se met à regarder du côté de la grande ville. Qu'est-ce qu'est la grande ville la plus proche? C'est Lyon. Et justement, M. de Congier, qui a des relations à Lyon, va lui permettre, pour gagner sa vie, d'avoir une fixation. Et Lyon, il a 28 ans, nous sommes 1740, il a 28 ans, et le voilà qui est précepteur, vous entendez, précepteur, lui qui était, il y a 3 ans encore ignorant, précepteur des deux fils, 13 ans et 15 ans, du préfet de police de Lyon, qui s'appelait M. de Mably. M. de Mably est un mondain, c'est un homme du monde, et c'est la première fois que je vais nommer Voltaire. Justement, Voltaire, en 1740-41, a écrit, ou va écrire, un de ses textes importants pour l'évolution de la pensée, ça s'appelle Le Mondain. Ce sont des vers allègres, comme tout ce que faisait Voltaire, mais c'est la signification de ces vers qui m'intéresse beaucoup. Au XVIIe siècle, vous savez que pour définir l'homme bien, on l'appelait l'honnête homme. Et la première qualification de l'honnête homme était d'être chrétien. Voltaire tentait de substituer à l'image de l'honnête homme du XVIIe siècle l'image d'un nouvel honnête homme du XVIIIe siècle qu'il appellera le mondain, l'homme du monde. Et la première caractéristique du mondain, c'est qu'il saura se délivrer des superstitions. Le mondain est un homme affranchi. Eh bien Jean-Jacques, le petit protestant fervent d'avant-hier, le petit catholique fervent d'hier, va changer complètement dans ce milieu de M. de Mably parce qu'il a l'intention de se pousser, d'arriver. Il a noué amitié avec deux garçons brillants de Lyon, l'un s'appelle Borde, l'autre s'appelle Parizeau, et afin que l'on ne se moque pas de lui, il va prendre les devants et se moquer personnellement de lui-même. Et il écrira un texte en vers, il n'en fera pas beaucoup d'autres, c'est un mauvais vers, assez durement rythmé, ça s'appelle Épître à Parizeau. dans lequel, dans laquelle épître, il y a deux vers très saisissants parce que c'est la preuve d'une apostasie. Je vous les cite. Qu'étais-je jusqu'ici? Enfin, qu'est-ce que j'étais? Qu'étais-je jusqu'ici? Orgueil des avortons, féru du préjugé natal. Voyons, prenons les mots. Orgueil des avortons. Avortons, ça signifie matériellement un petit bonhomme, hein, et en effet, je vous l'ai dit, j'en avais des petits. Mais je crois qu'il emploie le mot dans le sens que saint Paul lui donne dans l'Épître aux Romains où il lui parle de Christ qui est apparu à un certain Corinthien, qui est apparu à un certain nombre de gens, et à moi le dernier, et à moi avortons. Avortons, dit saint Paul. Alors je pense que quand il s'appelle avortons, c'est par une sorte d'humilité. Orgueilleux, avortons. Orgueilleux parce qu'il était citoyen de Genève. Et qu'est-ce qu'un citoyen de Genève devant les mondains de Lyon? C'est ridicule. Alors orgueilleux d'avorton. Mais c'est la suite qui est capitale. Féru du préjugé natal. Qu'est-ce que c'est ce préjugé natal? Ben, une certaine connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une option métaphysique. Or, le milieu dans lequel il a l'intention de se pousser est un milieu qui rejette toutes ces préoccupations métaphysiques. Par conséquent, il appellera préjugé natal ce qui a constitué le fond de sa conscience et le fond de sa vie intérieure quand il était protestant et quand il était catholique. Tout à l'heure, je vous disais que la conversion de Jean-Jacques à 16 ans manquait de substance, parce que les questions n'étaient pas posées, et Jean-Jacques à 16 ans voulait surtout changer de vie, quoi, se lancer dans l'aventure. Maintenant, il a 28 ans, hein, c'est un homme fait. Vous connaissez la vieille légende de, à propos d'Hercule, des deux routes, la route de la vérité, la route du mal, la route du bien, la route du mal, la route de Dieu et la route de Mammon. À 28 ans, les yeux ouverts, Jean-Jacques choisit. Il choisit la route de Mammon. Il va renoncer à tout ce qu'il a cru afin de se pousser. Lyon est insuffisant, bien sûr, l'important c'est Paris. Alors à 30 ans juste, en 1842, le voilà qui monte sur Paris. Il nous racontera que dans la diligence, quelqu'un, un prêtre, c'est lui-même, il avait posé une question, enfin, qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Qui êtes-vous? Et Jean-Jacques avait dit non, je ne connais personne et je n'ai pas de fortune. Et ce voyageur lui aurait dit, vous savez, pour un garçon comme vous, qui se présente très bien, la seule chance qu'il a de parvenir à Paris, c'est d'être l'amant d'une femme bien placée, une financière si c'est possible. Alors Jean-Jacques écoute et il regarde les financières de Paris. Il en trouve une qui était en effet ravissante, presque comme Madame de Varennes, sur les Madame Dupin. Il tente sa chance pour Madame Dupin, c'est la seule femme de financier qui fut fidèle à son mari, c'est raté. Alors Jean-Jacques va tout de même être employé chez les Dupin. Jean-Jacques va être employé comme caissier à la Banque Dupin. Il apprend que l'ambassadeur de France à Venise a besoin d'un secrétaire. Alors les gens se présentent, recommandés par Madame Dupin, bien sûr. Le voilà qui est fou de joie parce qu'il est secrétaire personnel de l'ambassadeur. Mais il fera croire qu'il est un secrétaire d'ambassade, ce qui est tout à fait différent. Vous savez, lorsque Clausel a été envoyé comme ministre de France à Rio en 1777, il avait un secrétaire d'ambassade qui était payé par l'État, et il avait un secrétaire personnel qu'il a pointé lui-même, qui s'appelait Darius Milhaud. Eh bien, monsieur de, comment il s'appelait, de Montaigu, oui, l'ambassadeur, avait très certainement aussi un attaché d'ambassade, un secrétaire d'ambassade, puis il avait un secrétaire personnel qui payait de ses deniers, qui était Jean-Jacques Rousseau, lequel avait trouvé un droit de prétendre à un titre diplomatique. Ben, Jean-Jacques jouait aux diplomates, il exigeait par exemple que les sentinelles à la porte de l'ambassade lui présentassent les armes à lui quand il passait comme ambassadeur. Enfin, rapidement, il va se rendre impossible, je crois que l'ambassadeur est un buteur, mais lui était un buvard. Et l'ambassadeur est obligé de le renvoyer, il retourne sur Paris. Ben, qu'est-ce qu'il est à Paris? Il est un Suisse en rupture de patrie, il est un quelqu'un qui a raté dans la carrière soi-disant diplomatique, et il va errer dans les coulisses de théâtre, dans les salles de rédaction, essayant de placer des articles, il a fait une pièce qui s'appelle Narcisse, qui l'a présentée à la Comédie française, et qui est tellement mauvaise qu'on n'accepte même pas de la jouer. Enfin, un Jean-Jacques qui piétine. Mais il a fait alliance avec un provincial comme lui, si on peut parler provincial pour Genève, qui était lui venu de Langres, qui s'appelait Denis Diderot, et qui s'était admirablement adapté tout de suite à Paris. Diderot est un personnage remarquable, avec une intelligence torrentielle et crépitante, et Diderot joue tous les soirs de 5 à 7 au Café de la Régence aux échecs. Je ne suis pas joueur d'échecs, mais on m'a dit qu'il fallait savoir se concentrer pour gagner une partie. Or, Diderot, paraît-il, gagnait toutes ses parties sans se concentrer, du moins en apparence, et en faisant tout le temps les plaisanteries, spécialement en religieux, sur cette 1, cette 3, sur cette vierge qui enfante, sur ces prêtre catholique qui va appeler croquer Dieu à cause de l'Eucharistie. Alors Jean-Jacques était debout derrière lui, il riait très fort, et Diderot pour nous, regardez, le garçon est intelligent, tu comprends ce que je dis. Alors il l'avait associé à ce qu'il était en train de faire, l'équipe rédactionnelle de ce dictionnaire raisonné des sciences et des arts qu'il devait s'appeler l'encyclopédie. Jean-Jacques est ravi, hein, le voilà qui s'est glissé quelque part, il est de l'équipe de la Cité de Ville, ça avait été une rumeur dans Paris, quelque chose de considérable va sortir, et Diderot s'était dit, tiens, il paraît que ce garçon a des connaissances de musique, donc les articles concernant la musique, je vais les lui confier. Tout ça ne l'avançait guère. Diderot et des camarades lui avaient dit qu'il ne pouvait tout de même pas vivre sans femme, alors il avait pris la lingère de le petit hôtel dans lequel il habitait. La mère de cette pauvre Thérèse Levasseur était une maîtresse, son frère était un truand, enfin on place contre eux, et il vivait avec Thérèse Levasseur. Il a passé 7 ans à piétiner à Paris et à s'agacer, avec l'impression qu'on est méchant avec lui, qu'on ne lui permet pas de se pousser, enfin d'arriver. Mais comprenez-moi bien, Jean-Jacques, c'est pas impunément qu'il a été marqué par le socialisme. Il y a cru pendant un certain nombre d'années. Et il n'arrive pas à ne plus personne croire. Si bien que, si vous me permettez, ce monde du luxe et de la luxure auquel il brûle d'appartenir, en même temps qu'il le convoite, il le condamne. Il y a une division intérieure chez Jean-Jacques, il y a un divorce, dont je vais essayer de vous apporter une preuve, c'est l'histoire de ses enfants. À sa maîtresse Thérèse, c'est vrai, il l'a dit lui-même, hein, qu'il a eu des enfants, il a eu 5 enfants successifs. Je sais bien que quelques-uns, quelques-unes, ont voulu dire que Jean-Jacques a fait semblant d'avoir 8 enfants, pour ne pas avouer qu'il était impuissant, ce qui est totalement faux. On nous a dit d'autre part, oui, s'il a abandonné ses enfants, comme vous allez le voir, c'est parce qu'il savait très bien que ce n'était pas les 5, Thérèse le trompait. Faux. Thérèse ne l'a trompé que bien plus tard, vers 65, et nous sommes dans les années 49, 47, 48, même 50. Elle a pour lui un dévouement de chienne, si je puis dire, elle n'était pas vie à chanter de la prime, mais elle ne le trompe pas, donc c'est bien ses enfants. Jean-Jacques, c'est dans quel milieu, dans quel cloaque, Thérèse respire, dans cet hôtel dont je lui ai parlé, hein, avec la mère et le frère dont je lui ai parlé. Par conséquent, s'il garde ses gosses, élevés par une Thérèse qui n'est pas très intelligente et par une grand-mère qui est impossible, ils vont mal tourner. Les filles deviendront des prostituées, les garçons deviendront intruants comme leur oncle. Hein. Mais d'autre part, il sait que c'est très grave d'avoir mis des enfants au monde, c'est une responsabilité. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans les divorces intérieurs où il est? Il va les déposer aux enfants trouvés. C'est un hospice qui avait été créé par celui qu'on appelle M. Vincent, vous savez, Vincent de Paul. Et j'ai vu les statistiques au milieu du XVIIIe siècle, le nombre des dépôts d'enfants aux enfants trouvés s'élevait sans cesse. Non pas des enfants adultérins, vous savez, pas des enfants illégitimes, comme on dit, pas des fils naturels ou des filles naturelles, mais dans un ménage d'ouvriers où il y avait déjà 5 enfants, et comme on ne connaissait pas la contraception, ni la pilule, quand il y avait un enfant de trop, ça n'avait pas quoi faire, alors quand on ne pouvait pas l'élever, on le mettait dans cet hospice. Ce sont des religieuses qui tiennent cet hospice. Les gosses qui vont être élevés là, sont élevés dans cette atmosphère qui a été celle de l'enfance de Jean-Jacques. Bien sûr, ils ne sont pas promis à des dignités humaines, hein. Les garçons sont des travailleurs, les filles sont des couturières, mais ils auront été élevés comme Jean-Jacques a été élevé. Il aurait dû, le sait bien, quitter ce cloaque de Paris pour essayer de revenir d'où il venait, à Genève ou peut-être en Savoie. Mais ça, il ne veut pas, parce qu'il est encore acharné à sa réussite. Parce que quand il préfère non pas garder ses enfants, mais les protéger. Cette faute, cette énorme faute de ne pas vouloir élever ses enfants, il s'arrange misérablement pour que ce ne soit pas tout à fait un crime. Et là, nous arrivons au grand tournant de la vie intérieure de Jean-Jacques, est octobre 49. Il a donc 37 ans. Ce que je vais vous expliquer là n'est pas admis par tout le monde, en particulier pas admis par Jean Guénot, qui est un homme que je respecte et qui a fait 2 livres très importants sur Jean-Jacques. Mais nous sommes complètement séparés là-dessus, comme je crois que j'ai raison, je continue à vous dire ce que je pense. Jean-Jacques nous racontera dans les confessions, et personne n'a jamais pu prendre Jean-Jacques en flagrant délit de mensonge, Dieu puisse ensuite appliquer, vous savez. Tout ce qu'il a dit dans les confessions, ça a été vérifié. Et bien il nous dit que, un jour d'octobre 49, il allait à pied, parce qu'il n'avait pas de moyen de faire autrement, à Vincennes, pour son ami Diderot, qui avait fini par faire incarcérer. Diderot avait publié un texte qui s'appelait « Lettre pour les aveugles à l'usage de ceux qui sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient ». C'est un texte extrêmement anti-religieux. Jean-Jacques est aussi anti-religieux à ce moment-là, il va voir le camarade qui est incarcéré. Il marche. Il a son chapeau sous le bras parce qu'il fait chaud, quoi que ce soit le début d'octobre. Et il a emporté la dernière livraison du Mercure de France, qui paraissait tous les mois. Et tout en marchant, il lit la question posée par l'Académie de Dijon pour son concours bisannuel, je crois, d'éloquence. Bien entendu, éloquence écrite, hein, il s'agissait de texte religieux. Et la question posée par l'Académie de Dijon est la suivante, je vais vous dire ça lentement, si le rétablissement des sciences et des arts, je pense que ça veut dire la Renaissance, a contribué ou non au progrès des mœurs. Ben Jacques nous dit, je réfléchis, et en réfléchissant, j'ai eu une commotion. Mes jambes se mirent à trembler, je suis tombé au pied d'un arbre en pleurant. pleurer pour le rétablissement des chances des arts, ça me paraît un peu raide. Alors évidemment, M. Gaynaud dit, mais vous savez, il me disait à moi-même, Jean-Jacques est un peu romantique, les romantiques versent toujours les torrents de larmes. Alors Jean-Jacques simplement a été ému avec l'idée qu'il allait pouvoir écrire un livre. Je crois pas. Si Jean-Jacques a dit qu'il a pleuré, que les gens se sont mis à trembler, il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que je suis persuadé qu'il n'a pas menti. Alors je vais vous donner mon interprétation à laquelle je continue à croire et même de plus en plus. Bon, Jean-Jacques essaye de répondre à cette question posée par la Comédie Dijon parce qu'il est toujours en quête de succès, quoi, de succès. Et il se dit, si jamais j'étais privé par l'Académie Dijon, c'est le succès assuré. À ce moment-là, le prix de l'Académie Dijon est aussi important, croyez-moi, que le prix de Bourg d'aujourd'hui. Hein. Ça a bien disparu, mais c'était vrai, c'est vrai. Alors Jean-Jacques, ambitieux, s'est dit, je vais essayer de répondre. Et il réfléchit. S'il était, comme vous et moi, un produit de collège, qu'est-ce qu'il ferait? Il essaierait d'aller dans une bibliothèque pour chercher, comme on dit, la littérature du sujet. Il essaierait de voir si la question a déjà été posée et traitée. Soit pour répondre en sens inverse, soit pour répondre mieux que les autres. Mais ce n'est pas un produit de collège, c'est un autodidacte. Alors cette question, il va la prendre à zéro, si je puis dire, il va se la poser à lui-même. Dans sa vie, c'est vrai qu'il y a eu un rétablissement, une manifestation des sciences et des arts. Vous l'avez bien vu, autour de sa 23e, 24e année, quand on lui a ouvert sa bibliothèque, il a découvert un autre univers. Hein. Alors les sciences et les arts, Dieu sait, il a fait un progrès. Alors il établit dans sa pensée une espèce de bilan. Hein. Il y a deux colonnes. La colonne, rétablissement des sciences et des arts. Alors ça, c'est une flèche ascendante. Et l'autre colonne, puisqu'on nous demande si le progrès des sciences et des arts a contribué ou non au progrès des mœurs. Si regarde ce qu'il est maintenant, vivant à Paris avec une femme qui n'est pas la sienne, mettant aux enfants trouvés et ses enfants, vivant dans le milieu où il vit, quand il pense à ce qu'il était lorsqu'il faisait sa prière autour de Chambéry, c'est bien évident que la flèche est descendante. Par conséquent, dans son cas particulier, le progrès des sciences et des arts n'a pas contribué au progrès des mœurs. C'est Jean-Jacques qui se regarde, examine conscience si vous voulez, et qui se fait horreur. Jean-Jacques qui dit, mais j'ai essayé de me vendre, on ne m'a même pas acheté. J'ai tout trahi, hein. J'ai trahi ce que mon père m'avait appelé, après ce que me disait le pasteur Mandersuit, qu'il aimait bien. J'ai essayé d'être un autre, j'ai essayé d'être un mondain. Ça n'a même pas réussi, puis je ne peux pas y arriver. Hein. Mais il vous sur ces troupes de Vincennes, il me semble qu'il y a un Jacques qui dit, c'est fini de désirer le mal. Et je n'ai pas fini de savoir que c'était le mal. Et j'en peux plus de marcher à contre-courant de mon cœur. Et je ne suis pas d'ici, et il a écrit en latin, barbarus hic et vos sum. Ici, à Paris, je ne suis qu'un barbare. Et j'appartiens à ce petit monde là-bas, ce monde de la Savoie et de Genève. Le monde des cœurs purs et des intelligences, et j'ai abandonné pour parvenir, et je n'aime pas parvenir. Ça retourne à son produit, c'est me rentrer dans la maison, c'est Jean-Jacques qui donne raison à son enfance. Alors si mon intervention est vraie, je comprends qu'il est bouleversé, je comprends qu'il soit mis à pleurer. Il a pensé à tout ce qu'il avait aimé et qu'il a maintenant renié. Alors j'ai l'impression que sur cette route, c'est un Jean-Jacques qui va faire un retournement, et que Diderot, il n'osera pas lui dire, bien sûr, le verra probablement très, très troublé, très changé, et Jean-Jacques va répondre avec une espèce d'emportement à l'Académie de Dijon. Il est collaborateur de ce dictionnaire raisonné des sciences et des arts. Et il va répondre que c'est très bien, que c'est très important, la connaissance scientifique et littéraire. Mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est la fidélité à ce qu'on est plus essentiellement soi-même, à cette connaissance du bien et du mal qu'il a voulu effacer de son esprit. Je ne sais pas combien il y a eu de réponses de l'Académie de Dijon. Je ne sais pas, mettons une centaine. Mais ce que je sais, c'est que les académies de Dijon, académiciens de Dijon, ont reçu un choc lorsqu'ils ont lu le texte, la copie de M. Rousseau. Toutes les autres, c'était des copies de rhétorique. Et lui, Jean-Jacques, il avait parlé avec ses entrailles. Hein. Je vous rappelle, dans Peggy, il y a un mot, Peggy dit, il y a des idées qui vous sortent de la poche du par-dessus, de la poche du par-dessus du voisin, et des idées qui vous sortent du ventre. Et bien Jean-Jacques avait répondu avec son ventre, c'est-à-dire avec son âme. Quoi. Il y avait une espèce de vibration dans ce texte. Qui sait que les académiciens de Dijon, ça, oui, ça c'est quelqu'un, ça c'est intéressant. Et voilà Jean-Jacques qui va être couronné dans le même texte, voyez-vous, dans le même texte où Jean-Jacques disait « L'argent n'intéresse pas la gloire, n'intéresse pas ce qui m'intéresse, c'est la vie intérieure et la droiture. » C'est ce même texte qui va lui permettre d'entrer dans la vie facile, avec de l'argent et avec de la gloire. Alors comment il va se comporter? Ben, pas tellement bien, vous savez. Oui, c'est vrai, il a fait un grand retournement intérieur, mais il continue à vivre à Paris. Lui qui avait tellement honte autrefois d'être un valet de chambre, eh bien il va exprès s'habiller comme un valet de chambre, comme un porteur de chaise à porteur, avec des vêtements de dur. Mais il continue à vivre dans le même milieu, si bien qu'il y gagne, si je puis dire, parce qu'il est dans ses salons, dans ses endroits très bien, chez le chef de la Popinière ou chez Madame Dépinay, et quand les gens voient entrer sur la lecture ministère, c'est « Ah !» On sait Jean-Jacques Rousseau. Alors immédiatement, ça fait curiosité de lui, c'est l'homme qui est décoré par l'Académie des Sciences. Donc il y gagne. Et il s'aperçoit, enfin, malheureusement, il s'aperçoit qu'il doit avoir très attentif aux vanités du monde, parce qu'il avait décidé de ne plus écrire que pour dire des choses qui lui tiennent à cœur. Et je sais bien les trois sujets qu'il avait. Il voulait parler de l'éducation, puisqu'il n'avait pas su élever les enfants, et ça sera les livres. Il voulait parler du couple homme-femme, et ça sera la nouvelle livre. Il voulait parler de l'organisation de la cité, et ça sera les contrats sociaux. Et voilà qu'au lieu de faire ça, il fait quoi? Il essaye de faire jouer à la Comédie Française cette pièce de marxiste qu'on avait reçue autrefois, qu'on va accepter cette fois parce qu'il est connu, parce qu'on dit, ah, c'est Jean-Jacques Rousseau, le couronnier de Dijon, hein, pièce tellement mauvaise qu'elle n'aura qu'une seule représentation. Le rideau va tomber sur un four, Jean-Jacques Rousseau lui citera en disant, ah, j'ai bien cherché, hein, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Bien. D'autre part, il compose un opéra, le devin du village, il le fait jouer, le roi s'intéresse à son opéra. Au point même, le roi est tellement enthousiaste, dit Jean-Jacques, qu'il chantait du matin au soir des airs du devin du village de la voile du feu du royaume, enfin c'est le roi qui chantait, quoi. Alors Jean-Jacques était en train de faire des choses qui étaient contraires à ce qu'il avait décidé de faire. D'autre part, à la psychopédie, on avait commencé à froncer le sourcil en voyant que collaborateur dans psychopédie avait répondu comme il avait répondu à l'Académie de Dijon. Bah, vous savez, Diderot est un réaliste, il dit, Jean-Jacques n'a pas d'argent, s'il a trouvé une combine personnelle pour avancer, je ne veux pas lui en vouloir, mais, voilà que Jean-Jacques avait fait qu'il réponse au contradicteur, et là, il avait été très loin. Je ne sais plus si c'est Borde ou si c'est l'ex-roi de Pologne qui a fait des contradictions, et dans une des deux réponses, pardonnez-moi d'oublier, mais je sais que c'est en 52, Jean-Jacques avait dit, de tous les livres qui existent, tu et moi, hein, de tous les livres qui existent, il n'y en a qu'un qui soit nécessaire, c'est l'Évangile. Pensez comme ça vous faire plaisir à Diderot. Hein. D'autre part, voilà les camarades qui lui avaient dit, maintenant que tu es connu, Jean-Jacques, je conforterais que tu trouves une compagne un peu plus reluisante que cette Thérèse. Et Jean-Jacques, responsabilité à l'égard d'une femme. D'autre part, on sait que le roi est enthousiaste du main du village, et le roi lui a même demandé de venir le voir, une audience lui a été accordée. Tous les camarades disent, bravo, je vois que tu vas avoir une pension. Et Jean-Jacques dit, non, justement, c'est que je ne veux pas y aller voir le roi. Parce qu'il va me proposer une pension c'est une chaîne dorée, mais je ne veux pas de chaîne. Vexant, vous savez, pour les encyclopédistes, qui étaient tous très attentifs à avoir les pensions, ils ont rapidé partout, hein, pension française, pension suédoise, pension russe, pension prussienne, partout. Et voilà Jean-Jacques qui disait qu'il n'en voulait pas, il se conduit mal. Mais le pire, c'est qu'en 1934, le voilà qui va retourner à Genève. Il va rentrer dans la citoyenneté de Genève. Il va faire amende honorable, il va redevenir protestant. Avec protestant, c'est moins grave que d'être chez les croix de Dieu catholique, mais enfin, c'est d'être avec des gens qui croient en Dieu, c'est très désobligeant. Alors, c'est à partir de ce moment-là que Jean-Jacques va s'apercevoir qu'après avoir donné des gages à un certain parti, c'est pas facile de s'en déprendre. Et Voltaire va commencer à agir contre lui. Qui est Voltaire? Alors, il faut que vous sachiez que Voltaire est un homme qui a la passion. Je ne fais pas une conférence sur Voltaire. Si j'ai une conférence sur Voltaire, j'essaie de vous expliquer pourquoi. Je constate simplement. Il a la passion anti-chrétienne. Il déteste le christianisme, viscéralement. Hein. Il a l'impression que l'histoire du christianisme prouve du reste avec l'inquisition et beaucoup d'autres choses. Le christianisme a apporté des horreurs au monde. Il a l'impression aussi qu'il y a un assombrissement de la vie avec certaines lois morales qui sont extrêmement déplaisantes. Il appelle les chrétiens des christicoles. Il a écrit une lettre, enfin deux lettres, trois, que je vais vous citer. Dans une lettre à propos de Servet, qui a mal tourné à Genève, comme vous savez, et à propos des victimes de l'Inquisition, il dit christicoles catholiques et christicoles protestants sont tous pétris de la même fange, et ce n'est pas le mot fange qu'il emploie. Deuxièmement, Voltaire dit à D'Alembert, il lui dit, dites-moi D'Alembert, est-ce qu'il n'est pas concevable que six hommes, suivez-moi, que six hommes de mérite qui s'entendent, et je sais qui sont six, c'est lui, Voltaire, c'est D'Alembert, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est d'Holbach et Helvétius. Six hommes de mérite qui s'entendent, est-ce qu'il n'y a pas moyen que six hommes de mérite réussissent, là où douze chacun ont réussi autrefois. Chacun, c'est la racaille. Hein. Qu'est-ce que douze chacun? C'est les apôtres. Parce que Voltaire dit, ce que les apôtres, qui sont des chacun, des prolétaires, des racailles, réussissent, c'est-à-dire à établir le christianisme, six hommes de mérite, autrement intelligents, sont parfaitement capables de renverser, de l'extirper, le christianisme. Et le président Hainaut devant lequel il s'annonçait comme le destructeur du christianisme, il avait dit en riant, mais dites-moi, monsieur Voltaire, vous ne pensez pas que vous êtes capable de arracher le christianisme de l'Occident. Et Voltaire avait répondu sans rire, et bien c'est ce que nous verrons. L'encyclopédie, ça se présente comme un dictionnaire raisonné des sciences et des arts, mais on sait très bien la signification de l'encyclopédie. Avant tout, c'est une entreprise pour délivrer le monde occidental du christianisme, pour extirper le christianisme de la filiation occidentale, pour lui donner un affranchissement, pour rendre la vie plus libre et plus heureuse. Alors imaginez la colère de voir que peuvent concevoir Voltaire, Green, Diderot et les autres, en voyant que ça marchait si bien. Le monde se déniaise furieusement, il fait des Voltaire. Le monde, c'est-à-dire le monde, hein, quoi. Dans l'élite, la seule chose qui compte, on commençait en effet à se déchristianiser. J'ai un renseignement là-dessus qui m'a impressionné lorsque je l'ai vu vers les années 1650, lorsque quelqu'un riche, convenable, mourait, et que tout de même on faisait venir le curé parce que ça se fait, et que le curé osait demander un fossile, impossible de trouver un fossile dans une maison courte, mais il fallait monter à l'étage domestique pour trouver cet objet immonde. Bon, alors le monde se daignait furieusement. Diderot écrivait lui, pour sa part, il pleut des bombes dans la maison du Seigneur. Quoi, ça va, on fait exploser la vieille bâtisse. Et voilà comme ça marchait si admirablement, un petit bonhomme de rien du tout, qui n'est même pas un Français, mais c'est de Metz, un Genevois, qu'on a poussé à Paris, qu'on a introduit dans l'encyclopédie, la Saint-Dévisie nous barre la route, il est l'homme à abattre. Sachez d'autre part que les encyclopédies sont d'une deuxième raison à laquelle on ne pense pas souvent, et je tiens beaucoup à y insister, pour exécrer Jean-Jacques. Ce sont les idées sociales de Jean-Jacques, car il avait écrit un fameux deuxième discours, vous savez, sur l'origine et l'égalité, qui avait mis Voltaire hors de lui. Voltaire écrit le commentaire qui suit, c'est la philosophie d'un gueux qui veut que les riches soient dépouillés par les pauvres. La correspondance littéraire de Grimm, qui est une espèce de journal manuscrit que Grimm répand à travers l'Europe, point de vue auprès de l'élite de toutes les sociétés européennes, attaque avec la dernière violence le texte de Jean-Jacques, en disant qu'il est destructeur de toute autorité. Et enfin, une encyclopédie, si je puis dire, enfin une amie de l'encyclopédie qui est Madame Dudescent, disait si on laissait agir Jean-Jacques, il remettrait tout dans le chaos. Il faut que vous sachiez à quel point la pensée politique de Jean-Jacques, telle qu'elle se définit maintenant, dans ce deuxième discours et bientôt dans le contrat social, à quel point elle est dans une opposition antithétique, enfin fondamentale, à l'égard de la pensée de Voltaire. Il faut que vous connaissiez un mot de Voltaire, que je m'acharne à répéter depuis peut-être 20 ans, qui n'a pas encore assez découvert, et que j'ai trouvé grâce à M. Pommeau, qui a fait un très beau livre sur la religion de Voltaire, qui ne donnait pas une référence suffisante. J'ai fini par la trouver, cette référence, c'est dans l'Essai sur les mœurs, chapitre de la Chine. Voltaire dit dans l'Essai sur les mœurs, chapitre sur la Chine, que la constitution chinoise est le plus beau monument de la raison humaine. Je ne sais pas si vous êtes bien au courant de la constitution chinoise, mais c'est la suite qui m'intéresse. Le plus beau monument de la raison humaine, car les Chinois ont compris. Alors, j'ai tout doucement, parce qu'il faut que vous entendiez ça, hein, qu'un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Voilà la philosophie politique de Voltaire. Donc, c'est une philosophie d'entretien, hein. Les nantis font travailler ceux qui sont pauvres, et sont nourris par ceux qui travaillent pour eux. Il faut que vous sachiez aussi que lorsque Diderot va écrire le chapitre représentant, qui veut dire député, dans l'encyclopédie, c'est lui qui va se charger des chapitres. Il dira, ne peuvent être représentants d'une nation que les propriétaires, bien entendu. Ceux qui ne possèdent rien n'ont qu'à obéir. Là, vous voyez l'opposition dramatique, très totale, entre la pensée religieuse d'une part et la pensée politique d'autre part, de Jean-Jacques d'un côté et de l'encyclopédie de l'autre. Nous savons par les mémoires de l'abbé Trublet, que dès 1754, dans le salon de Mme Geoffrin, qui est une amie de l'encyclopédie, commençaient des rumeurs contre Jean-Jacques, en disant, mais ce Jean-Jacques qui fait tant de bruit, c'est un hypocrite au fond, il n'y croit pas. Ce Jean-Jacques, c'est peut-être un esprit dérangé. Jean-Jacques, c'est un aventurier qui essaye de l'attirer le regard sur lui, et puis c'est un homme, peut-être, dont l'esprit est vraiment en péril. Voltaire a demandé à D'Alembert, sachant ce qu'il fait, comment vont les organes pensants de M. Rousseau. Il paraît que sa glande pinéale lui donne des préoccupations. Hein. Jean-Jacques va faire quelque chose, hein, le 9 avril 1956, qui va exaspérer d'une manière définitive ses amis, entre guillemets, de l'encyclopédie. Vous avez vu comme il s'était mal conduit en essayant de faire jouer Narcisse et en écrivant le devin du village, qui n'était pas dans la ligne de ce qu'il avait décidé. Il s'aperçoit qu'à Paris, il est vulnérable parce qu'il y a des tentations de vanité auxquelles il ne sait pas, contre lesquelles il ne sait pas se défendre. Alors, ce 9 avril 1956, il a décidé de quitter Paris. Il va s'établir à la campagne, près de Montmorency, en louant, en payant, un loyer dans une maison de jardinier qui appartient à Madame Desfinets, qui était quelqu'un qui connaissait et qui lui était favorable. Pourquoi signe-t-il Paris ? Président pour être seul. Il l'avouera plus tard qu'il avait été un peu indisposé contre Diderot, qui, pendant qu'il écrivait lui, Jean-Jacques, le deuxième discours, lisait par sur son épaule et lui donnait des conseils. Si dans ce deuxième discours, vous voyez un Jean-Jacques qui parle avec émotion de l'homme de la nature, c'est-à-dire le sauvage, c'est parce que Diderot lui a expliqué le supplément, a écrit le supplément au voyage de Bougainville, et que Diderot est fasciné par ces fornicateurs sans complexe que Bougainville a découvert du côté des antipodes. Jean-Jacques va lui reste rapidement remplacer ce mot homme de la nature par la nature de l'homme, ce qui est tout à fait autre chose. Mais il avait été agacé, enfin importuné, par Diderot qui lui donnait des conseils. Il veut maintenant travailler seul. Mais comme on sait que la Révolution est en train de faire, qu'il a osé écrire que le seul livre nécessaire c'est l'Évangile, l'Encyclopédie s'est dit, s'il est là-bas dans sa solitude de Montmorency, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit qu'il voulait faire un livre sur l'éducation, faire un livre sur la cité, et bientôt on surveillera Jean-Jacques assez près pour s'apercevoir, il verra lui-même que ses papiers ont été touchés pendant qu'il était en promenade. Il va écrire un livre qui s'appellera L'Émile. Au centre de L'Émile, il y a la profession de foi du vicaire Savoyard. Et au centre de la profession de foi du vicaire Savoyard, il y a cette phrase inadmissible, en fait, il faut lui faire rentrer dans la gorge. Si la vie et la mort de Socrate furent d'un homme, la vie et la mort de Jésus furent d'un Dieu. Alors vous voyez à quel point il est dangereux. On croit le tenir en 56, dans la même année 56 où il avait quitté Paris, parce que Jean-Jacques est emporté pour la première fois par ce que Mauriac encore appellera le fleuve de feu. Jean-Jacques avait eu très peu de femmes dans sa vie, n'avait jamais été amoureux, et il est amoureux pour la première fois. Il est amoureux d'une personne beaucoup plus jeune que lui, il a 45 ans, et elle en a, je crois 29 ans, c'est Sophie Douteau. Sophie Douteau est belle, elle a un mari, M. Douteau, mais elle trompe son mari, mais elle est très fidèle à son amant qui est Saint-Lambert, qui est un ami de l'encyclopédie. Et Jean-Jacques est bouleversé par Sophie Douteau, qui est une amie et même parente éloignée de Madame Desfinets. Madame Desfinets, qui a un amant attitré, qui est Grimm, aurait bien voulu non pas que Jean-Jacques fût son amant, mais en fait il fut fasciné par elle. Et ça agace Madame Desfinets de voir qu'il s'intéresse à Sophie Douteau. Jean-Jacques conduira très mal avec Sophie Douteau. J'ai pas envie de vous donner des détails là-dessus, mais sachez que si Jean-Jacques n'a pas obtenu Madame Douteau, ce n'est pas qu'elle ait été absolument rétive, c'est que ce n'est pas ça tout à fait qui l'intéresse. Enfin, toujours est-il que Diderot le repère en disant tiens, Jean-Jacques a décidé d'aller vivre à la campagne, soi-disant pour vivre à la solitude de la méditation, il va tout simplement pour essayer de soulever sa maîtresse à Saint-Lambert. Alors, je vais prévenir Saint-Lambert. Oui, Diderot a fait ça. Diderot s'est arrangé pour que Saint-Lambert sache que Jacques Rousseau tourne autour de Sophie Douteau. C'est Grimm qui va s'arranger pour que la brouille s'établisse entre Jean-Jacques et Madame Desfinets, ce qui permettra aux encyclopédistes de dire, vous voyez, c'est un hypocrite, puisqu'il essayait de prendre cette femme qui n'est pas la sienne, et d'autre part, vous voyez ce qu'il a fait à l'égard de Madame Desfinets, c'est sa bienfaitrice, qui l'éloge, c'est pas vrai, puisqu'il est payé son loyer, qui l'éloge, et c'est un homme qui mord la main qui lui tend du pain. Il s'agit effectivement de l'empêcher de nuire. Et nous savons par Madame de Verdelin, qui est une grande dame de l'époque, qui écrivait à Jean-Jacques, que ce qui va se passer au Parlement, les encyclopédistes n'y sont pas pour rien. Le Parlement est peuplé d'esprits forts. En principe, des gens qui vont à la messe parce que ça se fait, mais en réalité, qui sont déjà très détachés du socialisme. On leur a expliqué d'autre part que le livre que Jean-Jacques publie n'a pas eu deux coups sur coups, c'est le livre d'éducation et le contrat social. Ce sont deux livres révoltants et révolutionnaires. Alors le 9 juin 1762, le Parlement de Paris décrète Jean-Jacques, comme on disait, d'arrestation. C'est-à-dire, on décide qu'il doit être arrêté. Il était protégé à ce moment-là, Jean-Jacques, par le duc et la duchesse de Luxembourg, le maréchal et la maréchale de Luxembourg. C'est le maréchal qui est avisé de la décision du Parlement quelques heures avant qu'elle se prenne, dit à Jean-Jacques, partez, il faut partir tout de suite. Et il lui donne son carrosse. Jean-Jacques quitte la propriété du maréchal de Luxembourg dans le carrosse du maréchal, croise la voiture qui amène les exemples de police, comme disait alors pour des militaires. Ils ne savent pas que Jean-Jacques est dans cette voiture, ils ont hâte de l'arrêter, mais ils ne le reconnaissent pas, et Jean-Jacques s'enfuit. Où ? Mais forcément à Genève. Nous sommes en 62, il est rentré dans la communauté protestante et genevoise en 54, il a dédié son deuxième histoire à la ville de Genève, il est donc absolument convaincu, mais convaincu, tranquillement convaincu, qu'à Genève, on lui fait un grand accueil. Il a oublié que depuis 1655, et nous sommes en 62, il y a un hôte de plus à Genève, qui s'appelait M. Voltaire. Voltaire avait loué et puis acheté ensuite la propriété qui s'appelait Saint-Jean. On n'imagine pas Voltaire visiter Saint-Jean, qui réussira. Il avait transformé Saint-Jean en délice. Alors il avait la propriété des délices et il était extrêmement bien vu du petit conseil de Genève. pour que vous sachiez que Genève était une cité à ce moment-là, dirigée pratiquement par ce petit conseil de 25 personnes, qui étaient presque tous des banquiers, et qui avait une très grand respect pour M. de Voltaire. On savait bien que Voltaire pensait un peu mal sur les questions religieuses. Il avait même parlé de l'âme atroce de Calvin, ça ne se fait pas à Genève. Mais enfin, du moment où c'était M. Voltaire, avec sa grosse fortune, on était gentil comme Dieu avec lui. Il avait publié un dictionnaire philosophique, dont certaines informations étaient peut-être risquées. Alors le petit conseil de Genève avait décidé de brûler le dictionnaire philosophique, mais avait envoyé une délégation chez M. Voltaire pour s'excuser en disant qu'il était obligé de le faire à cause des protestants, à cause de la base juive, encore, nous lui demandons pardon, nous sommes obligés de le faire. Comprenez que les jeunes voix, c'était à ce moment-là, des gens qui considéraient qu'il y a des choses sérieuses et des choses pas sérieuses. Les choses sérieuses, c'est l'argent, les choses pas sérieuses, c'est la religion. Alors M. de Voltaire est un homme sérieux. Alors Voltaire, quand il sait que Jean-Jacques a été décrété d'arrestation et que Jean-Jacques est en train de marcher, de rouler en voiture, dans la direction de Genève, Jean-Jacques va trouver ses amis du petit conseil, qui l'écoutent beaucoup, étant donné sa situation de fortune. Et il leur dit, mais vous n'allez pas faire l'erreur de recevoir une voix couchée, c'est entendu, les jeunes voix, mais écoutez, M. Choiseul est très mal vécu, puisqu'il vient de les chasser de France, il aurait même voulu arrêter. Et vos opérations financières se font surtout avec la France. Parce que je vous assure, disait Voltaire, c'est une maladresse de votre part d'accueillir Jacques Rousseau. Le petit conseil ne demandait que ça, parce que les idées de Rousseau lui paraissaient redoutables. Le petit conseil a toujours peur d'une agitation dans les rues basses de Genève. Je rappelle qu'il s'était produit au moment d'Henri Fascio, au moment de Lemaître. Et il dit, en effet, il ne faut pas que Jean-Jacques Rousseau ici. Si bien que, arrivant à Yverdon, Jean-Jacques est stupéfait, mon œil est stupéfait, d'apprendre que sa ville de Genève s'est prononcée contre lui, et que s'il va à Genève, il sera incarcéré comme il l'aurait été, il serait resté à Paris. Il ne comprend pas le coup, il ne voit pas d'où ça vient. Il pense pas à Voltaire. Quoi qu'il aurait pu se rappeler que Voltaire avait écrit le désastre de Lisbonne pour expliquer qu'il ne peut pas y avoir de providence. La preuve, c'est que Dieu a choisi le jour de la Pentecôte, le jour de la Toussaint, où les églises étaient pleines pour organiser son tremblement de terre de Lisbonne, et qu'il y a eu beaucoup plus de gens morts ce jour-là que ça n'avait pas été la Toussaint, et par conséquent, le bruit n'existait pas. Alors Jean-Jacques avait répondu par une lettre sur la providence qui était restée en travers de la gorge de Voltaire. Alors il croit qu'il va pouvoir rester à Yverdon, le pauvre, mais il ne se rend pas compte que Yverdon est une terre bernoise à ce moment-là. Et que par conséquent, les excellences de Béarn ont quelque chose à dire sur la présence de Jean-Jacques Rousseau. Il ne sait pas les lettres que Voltaire va écrire ou faire écrire à leurs excellences de Béarn pour tenir le même langage qu'il avait tenu aux excellences de Genève. En disant, mais vous aussi, hein, les gilets bernois, vous avez des affaires financières avec la France. Tout ça sera très compromis si vous prenez Rousseau. Alors Rousseau dit, s'attend pas, encore moins que du côté de Genève, apprend que les autorités bernoises l'obligent à s'en aller. Où va-t-il aller? Il voudrait bien rester dans son pays, enfin, géographiquement. Alors il y a un état qui pourrait lui convenir, c'est la principauté de Neuchâtel qui est suisse sans être suisse, qui s'est appartenu à ce moment-là Frédéric II. Et le directeur, enfin le gouverneur de l'état de Neuchâtel s'appelle, dans les conseils, Lord Maréchal, qu'on l'appelait Miller-Kaise. Il a trouvé Miller-Kaise en demandant si Frédéric II acceptera, je crois que Frédéric II débrouille avec Voltaire, est très content de dire, je vais reprendre Jean-Jacques Rousseau chez moi. Et voilà Rousseau qui est accueilli dans la principauté de Neuchâtel, mais il a peur de la ville, même une petite ville comme Neuchâtel, à Salonie, il veut aller dans la campagne, vous savez, et il va à Montier. Montier était très bien reçu par le pasteur, c'est des Montmelin. Le pasteur est très content, Jean-Jacques lui paraît très intéressant, il a lu la profession de foi de Luther Savoyard, et bien qu'il y ait des critiques contre les miracles, il estime que l'essentiel, et c'est vrai, et l'essentiel est une manifestation chrétienne, parce que il accepte Jean-Jacques, il l'accueille même à la communion protestante. Mais Montmelin va s'apercevoir rapidement qu'il a fait une erreur. Il va recevoir des lettres de Genève, en particulier des pasteurs de Genève, dont beaucoup sont voltairiens. Et il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est que j'ai une très désobligeante pour nous. Nous avons chassé Rousseau, et nous l'avons même considéré comme hérétique. Et vous, un pasteur, à chaque fois, c'était Jean-Jacques. Si bien que Montmelin se mord les doigts de ce qu'il a fait, et que finalement, au début de l'année 65, il va se tourner contre Jean-Jacques. Et d'une manière assez terrible, quand on pense qu'il va s'adresser à un auditoire analphabète, ces paysans qui l'écoutent bouche bée, et il leur dit l'antéchrist. L'antéchrist. Et parmi vous. Alors imagine le résultat, la lapidation de la maison de Jean-Jacques. On rira plus tard, on dira quoi, on a lancé des cailloux, on s'est volé, il a appelé ça une lapidation. Mais depuis que j'habite il y a 35 ans, le château, j'ai fait une autre petite trouvaille, à savoir qu'une herse avait été placée contre la porte de la maison de Jean-Jacques qui s'ouvrait en dedans. De la même manière que Jean-Jacques recevrait cette herse dans la figure lorsqu'il ouvrirait sa porte. Là, il se rend bien compte qu'il ne veut plus rester à moitié, puisqu'on l'exerce. Où diable peut-il aller? Alors, comme avec son ami du Pérou, il est allé voir l'île Saint-Pierre, qui était à ce moment-là une île, vous savez, où il n'y avait qu'une seule maison, la maison de receveur. Ça dépendait de Berne, bien sûr, mais il écrit aux autorités bernoises. En disant, je demande la permission d'aller achever ma vie, je suis vieux maintenant, dans cette île. Je n'en penserai même pas si vous voulez de passer de très loin d'entre. J'aurais passé les derniers moments, les dernières années, je ne sais pas, de ma vie dans le silence et dans la médiation. Il est tellement convaincu qu'on ne peut pas l'en empêcher, puisqu'il faut être corrupteur avec Saint-Pierre, qui s'y installe dans cette maison où le receveur lui donne un tout petit appartement, vous avez sans doute vu. Et bien, le même coup qui s'était produit pour Yverdon se produit de nouveau. Et Roger Bernois, je vais dire, lui donne l'ordre de dégarter. Je ne veux pas faire de littérature, mais enfin, c'est tout de même la chasse à Jean-Jacques, hein. Puis chasse à l'homme. Ou plus-il, comme on dit aujourd'hui, enfin, comme disait l'Évangile, ou peut-il reposer sa tête. On ne veut de lui nulle part. Et à ce moment-là, une de ses amies, on a quand même gardé, Madame de Boulefleurs, lui dit, si j'ai un ami que vous connaissez le nom, le grand philosophe anglais David Hume, qui serait disposé à vous recevoir. Jean-Jacques en est frappé et flatté, parce qu'il sait que Hume est un ami de l'encyclopédie, et il a l'impression que les encyclopédistes seront désagréablement surpris d'apprendre que Hume ouvre les bras à Jean-Jacques. Nous savons aujourd'hui le fond des choses, Hume était très attiré par Madame de Blouffers, il n'avait pas encore obtenu ce qu'on appelle ses faveurs, et il s'était dit, si je suis gentil avec Jean-Jacques, peut-être j'aurai une récompense de la part de Madame de Blouffers. Alors il va accepter Jean-Jacques, mais comme d'autre part il ne veut pas se brouiller avec les encyclopédistes qui sont si mal avec Jean-Jacques, il va conduire contre son hôte, contre un homme qu'il a accepté, qui est chez lui. Il va conduire une épouvantable campagne de diffamation. Je ne savais pas à ce moment-là, il y a 20 ans, 30 ans, je ne savais pas l'anglais, j'ai appris l'anglais pour lire la correspondance de Hume puisqu'elle n'est pas traduite, et c'est une correspondance à faire dresser les cheveux sur la tête. Hume a donc Jean-Jacques chez lui, hein, et multiplié les lettres à ses correspondants européens pour dire, vous savez, c'est très drôle de voir Jean-Jacques Rousseau de près, comme je l'ai vu moi. Je croyais que Rousseau se dit malade, il avait à ce moment-là une robe, pas une robe d'arménien, peut-être au souvenir d'un chemin de rue. Pourquoi? Parce qu'il portait une sonde dans la vestie, et qu'avec les culottes qu'on portait ailleurs, une sonde se voyait. Tandis que si ça disait en arménien, Dieu sait pourquoi, enfin, avec une robe, on ne verrait pas sa sonde. Alors il donnait pour malade, il se disait, il était malade. Alors Hume, dans une lettre du GFL, a traversé des chaînes avec lui, avec Rousseau, moi j'étais très malade. C'est formidable, un singe, j'ai grimpé dans les cordages, c'est un garçon extraordinairement développé physiquement. Deuxièmement, c'est un homme qui se prétend pauvre, ne pas vouloir d'argent. Alors, suite d'une indiscrétion bien involontaire, dit M. Hume dans une de ses lettres, j'ai vu une lettre que le banquier lui donnait le nom. Le banquier Zollikofen de Zurich écrivait à Rousseau, il a des tas d'or, comme ça, il se cache à Zurich. Ah. Troisièmement, Rousseau passe pour, disait la profession de Rousseau, à Savoyen, un ami du christianisme, si vous avez comme, entre quatre yeux, comme il est drôle, quand il parle de l'évangile, de la vie, il fait rire tout le monde. Autrement dit, Hume continue la campagne de dénigrement. Il s'agit de retirer à Jean-Jacques toute audience, car il a de l'audience, c'est une audience dangereuse. Alors il faut le faire passer partout pour un hypocrite, pour un tartuffe, pour un fou, pour un méchant, pour un ennemi du genre humain. J'ai oublié de vous dire que Diderot, dès 57, dans une pièce qui s'appelle « Le fils naturel », avait lancé une réplique qui avait couru Paris parce qu'on en connaissait l'application. « Il n'y a que le méchant qui soit seul », disait Diderot. Seul, parce que Jean-Jacques a voulu quitter Paris, s'est établi là-bas à Montmorency. Et Voltaire disait pour sa part, « Mais qu'est-ce qu'il fait comme un blaireau au fond d'un bois ?» Alors Jean-Jacques va accepter l'hospitalité menteuse de Hume. Il mettra un an et demi à s'apercevoir du rôle, du jeu que joue Hume. Et quand il aperçoit, quand il aperçut de l'immonde campagne que Hume faisait dans son dos, le voilà qui va s'enfuir, effaré, c'est-à-dire réellement effaré. Parce qu'il est trop malheureux de ce qu'on lui a fait, et qu'il ne trouve pas, il ne peut pas rentrer en France, il est sous le coup du décret d'arrestation. Mais vous savez que les faux passeports sont pas faits pour les chiens, alors il va se faire établir un faux passeport, il s'appelle Monsieur Renou, qui voyage avec sa sœur, non, c'est sa maîtresse, Mademoiselle Renou, c'est-à-dire Thérèse de la sœur, et il va compter sur le prince de Conti et sur le maréchal Luxembourg pour que son retour à Paris, en France, passe inaperçu. Alors le voilà qui va d'abord à Fleury-sous-Meudon, propriété du prince de Conti, et puis il est dans un tel état de nerfs qu'il a l'impression qu'on le surveille de partout, c'est en près de Paris qu'il a des ennemis. Il arriva dans l'autre propriété qui est en Normandie du prince de Conti, à Cluny. Et là encore, il est malheureux, il dit, oh, il y a des gens mauvais qui le surveillent. Le voilà qui traverse la France en diagonale, il va à Lyon, il s'accointe avec un avocat de Lyon qui s'appelle Louvier, contre lequel je crois qu'il n'a rien à dire. Mais Jean-Jacques se persuade encore que ce Louvier est un ennemi, que c'est un des encyclopédistes de guette, la conspiration holbachique, comme il disait, vous savez, du comte d'Holbach, quoi. Alors il quitte Lyon, le voilà qui est à Grenoble, de Grenoble, je le vois qui va à Montquin, qui va à Bourgoin, et c'est le moment où, à travers tous ces zigzags, Jean-Jacques est en train d'écrire ses confessions qu'il avait commencé depuis quelques années. Quelle était la signification de ces confessions? Qu'est-ce qu'il voulait donc faire? On m'apprenait, lorsque j'ai été élève, on apprenait que Jean Jacques est à l'origine de cet épandage de littérature confidentielle qui nous a valu tant de choses, y compris le journal de M. Gilles. Alors on nous cite, on nous dit, ben oui, il y a eu l'histoire de ma vie de Jérusalem, la confession à la fin du siècle et de Michel, il y a les mémoires d'outre-tombe de Château-Président, la confidence d'un artiste. Halte. Il y a une différence foncière entre les écrits de ces dames que je viens d'énumérer et le texte de Jean Jacques. Qu'est-ce qui pousse M. Gilles ou M. Lamartine ou M. Michel à nous raconter sa propre histoire? Rien d'autre que la complaisance qu'ils se portent à eux-mêmes. Tandis que l'homme des confessions est un homme qui, depuis 20 ans, entend derrière lui une meute qui crée à l'hypocrite et au fou. Alors Jean Jacques a fait un coup, déterminé, il prit une détermination que personne, et certainement pas Saint-Augustin, n'avait eu avant lui. À savoir, nous avons tous, un petit sac d'inavouable. On a tous fait des choses laides. Eh bien, je vais tout dire, moi. Je vais faire ce que personne n'a osé dire. Je vais raconter même la pire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire ce voile et cette calomnie d'autrefois. Et une fois que j'aurai tout dit, je ne demanderai pas à ceux qui m'entourent de faire la même chose, non. Je leur demanderai simplement de réfléchir sur leur propre cas. Si bien que se tromper, mais se tromper d'une manière catégorique, commettait le plus complet contresens, mon professeur de première, qui prenant l'avertissement des confessions, nous disait, moi et aux petits élèves, vous ne regardez cette folie de Jean-Jacques. Lisez cet avertissement. Il est en train de construire le socle de sa propre statue, puisqu'il ose dire, et quiconque aura lu ce livre, ose dire après, je suis meilleur que cet homme-là. Contresens. Il ne s'agit pas d'un Jean-Jacques qui se donne un exemple. C'est comme toujours avec Jean-Jacques, c'est une référence évangélique, c'est une référence à la femme adultère. Et la femme adultère est coupable, comme moi aussi Jean-Jacques, je suis coupable. Mais le Christ disait que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Eh bien, vous qui allez lire mes confessions, vous qui me détestez, rentrez un peu en vous-même. Je ne vous demande pas de rien dire, je vous demande de réfléchir. Vos mains qui tiennent les cailloux de lapidation contre moi, vos mains sont-elles pures? C'est ça, les confessions. Alors Jean-Jacques va se décider, toujours protégé par le prince de Conti, à rentrer clandestinement. Clandestinement, hein, on peut toujours l'arrêter. À Paris en 1771. Il voudrait essayer de se défendre, puisqu'il fait bien la rumeur qui est contre lui. Et il a trouvé une amie, Madame d'Egmont, qui accepte qu'il lui donne quelques lectures de ses confessions dans son salon. Les angélistes qui le guettent apprennent, par des émissaires probablement, que Jean-Jacques est à Paris et donne des conférences, des lectures de ses confessions. Ils ont très peur, surtout Diderot, de ce que Jean-Jacques pourra dire dans les confessions, encore que Diderot ne sache pas ce... Encore que Jean-Jacques ne sache pas tout ce qu'il pourra faire contre lui. Je me suis aperçu, pardonnez-moi, que j'ai oublié quelque chose de très important, et je vais repartir en arrière. Oui, c'était quelque chose qui s'est passé en 64-65, lorsque Jean-Jacques était à Moitié. S'il vous plaît, dans votre esprit, vous allez rétablir, dans une parenthèse, en 64-65, ce que je dis maintenant, c'est que vous êtes 71. Reprenons 64-65. Il s'agissait de ce que Voltaire a fait de pire à l'égard de Rousseau. Que je vous donne quelques détails là-dessus, nous reviendrons ensuite à Jean-Jacques à Paris. Dans le dernier temps, les deux dernières années de son séjour à Moitié, Jean-Jacques avait rédigé des lettres écrites de la montagne. Écrites de la montagne où, évidemment, assez mécontent de ce que Genève lui avait fait, il avait décidé de dire la vérité sur Genève. Enfin, ce qu'il croyait être la vérité, qu'il ne paraît pas trop éloigné du réel. Jean-Jacques avait fait l'histoire de Genève en disant que Genève avait été conçue au moment de Calvin comme une espèce de république assez démocratique, quoique sous la dictature de Calvin. Mais il s'est trouvé qu'au cours des années, ces préjugés démocratiques se sont transformés en oligarchie financière. Et que la ville de Genève est en réalité la propriété d'un petit groupe bancaire. C'est très désagréable ce qu'il allait dire là. Et puis, pendant qu'il est en train de rédiger, il lui arrive une curieuse histoire. Une dame dont le nom ne me revient pas, je ne suis pas bien sûr que ce soit Madame de Beauregard, mais enfin, non, preuve importe peu. Une dame qui n'est pas au courant de l'opposition fondamentale que Voltaire dirige contre Rousseau, une dame avait écrit à Voltaire pour lui demander s'il n'était pas l'auteur d'un pamphlet anti-religieux extrêmement fort, du reste très bon, ça vous savez, je suis du côté des écoles, mais je salue l'habileté de l'homme d'adversaire. Le Sermon des 50, c'est un des textes les plus extraordinairement anti-chrétiens, les plus habiles de Voltaire. Voltaire n'avait jamais voulu accepter l'aveu de dire qu'il était l'auteur. Au point même qu'il avait une deux nièces, vous savez, une avec laquelle il couchait, une avec laquelle il couchait pas. Celle avec laquelle il couchait, c'était Madame Denis, mais il y en avait une autre qui était Madame de Fontaine, qui était très convenable et qui avait son mari, tandis que Madame Denis était veuve. Et Madame de Fontaine, nièce de Voltaire, lui avait dit, à voix basse, mon oncle, on dit que le Sermon des 50 est de vous. Vous pouvez me dire la vérité? Voltaire qui ne veut pas dire la vérité, même à sa nièce lui avait répondu, je ne sais de quoi vous me parlez à propos de ce sermon des 50. S'il s'agit de quelques sottises antichrétiennes et que quelques saquins voulu me l'attribuer, j'en appellerai au pape car je n'entends pas plaisanterie sur ces sujets-là. Vous voyez à quel point Voltaire se cachait. Alors cette pauvre madame de Bourgard dit à Voltaire, écoutez, je ne connais pas l'adresse de Rousseau, mais il est en Suisse comme vous, enfin pas loin de Genève, alors vous serez bien gentil de lui communiquer ma lettre. Voltaire fait un coup atroce. Il fait répondre par un secrétaire, ou plutôt il fait envoyer par un secrétaire sans lettre de sa main, une lettre, un document à cette madame de Bourgard, et il lui envoie simplement un exemplaire du sermon des 50. De telle manière que madame de Bourgard, qui avait prié de transmettre ce document à Rousseau, sa lettre à Rousseau, croira que c'est Rousseau qui a répondu et qui a fait ce texte. Ça plairait beaucoup à Voltaire, parce que Voltaire est l'homme qui dit, je n'y crois pas à son christianisme, et vous voyez ce qu'il était capable de faire en douce. Cette dame écrit à Jean-Jacques pour indiquer sa stupeur en disant, alors que ça s'est suivi, je suis pareil, mais Jean-Jacques s'aperçoit que c'est Voltaire qui a fait croire à cette dame qu'il a été l'auteur du sermon des 50. Alors il a restitué à Voltaire par un petit paragraphe, il est écrit de la montagne, ce cadeau empoisonné. Il dit, monsieur Voltaire, auteur du sermon 50, vous devez me faire passer pour l'auteur de ce livre, c'est lui qui l'a écrit. La vengeance de Voltaire sera inimaginable. Tout à l'heure, dans mon préambule, je vous disais que Voltaire a poursuivi Jean-Jacques d'une haine, quand vous ne connaissez pas la violence, vous allez l'avoir à plein. C'est l'étoile de la montagne déplaise, évidemment, beaucoup qui conseillent. Et je lui ai dit que le petit conseil craignait toujours les mouvements populaires dans ce qu'on appelle à Genève les rues basses, c'est-à-dire au-dessus de la rue des Granges. Et Jean-Jacques est un homme des rues basses. Alors Voltaire, sachant qu'il y a grande inquiétude auprès dans le petit conseil, va par deux textes, l'un écrit de sa main, et l'autre truqué, l'autre anonyme, essayer de pousser le petit conseil à des mesures extrêmes, vous allez voir quelles mesures, contre Jean-Jacques. Premier texte, c'est une lettre à François Tronchin, du petit conseil que M. Bernard Gaillemin a retrouvé et publié il y a quelques années. Où Voltaire dit explicitement ceci. Le petit conseil sera traîné dans les boues par la populace s'il ne se décide pas à un jugement qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Un jugement qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Le petit conseil, poursuit Voltaire, aura trop de sagesse et trop de fermeté pour se borner à faire brûler un livre à qui la brûlure ne fait aucun mal, mais jugement qui mette fin à l'audace d'un scélérat. Un, ça c'est un texte de lui. Deuxièmement, Voltaire va, avec son habileté, imiter le style ecclésiastique. Il va faire imprimer un petit pamphlet qui s'appellera Le sentiment des citoyens, comme si cet ecclésiastique exprimait le sentiment des citoyens de Genève sur ce Jean-Jacques Rousseau qui vient d'écrire un livre aussi abominable. Rousseau, toute sa vie, croira que c'est en effet un pasteur de Genève qui a écrit ce texte, et nous savons aujourd'hui que c'est de Voltaire. Dans Le sentiment des citoyens, il y a un portrait abominable de Jean-Jacques, et qui se déguise en saltimbanque, à cause de sa robe d'armure, pour dissimuler les traces de ses débauches anciennes. Un. Il se fait suivre à travers les campagnes et les montagnes d'une malheureuse qu'il exploite. C'est Thérèse Levasseur, que Jean-Jacques est du reste épousé en 67. Il a réduit à la mort la mère de sa maîtresse. Pas du tout, Madame Levasseur vit à Paris avec une pension que lui fait Jean-Jacques. Et la conclusion c'est, écoutez-moi bien, on punit capitalement un vil blasphémateur, ou plutôt un blasphémateur séditieux. Capitalement, vous avez entendu. Un jugement qui met fin à l'audace d'un scélérat. On finit capitalement un blasphémateur. Voltaire espère que le conseil de Genève obtiendra l'extradition de Jean-Jacques. Il accomplira sur Jean-Jacques ce qu'il a fait, lui, le petit conseil, lorsqu'il a fait exécuter, vous savez bien, Henri Sassier et le maître, ça n'y a pas tellement longtemps. Voltaire se dit, je serai d'une pierre d'un coup, je vais me débarrasser de Jean-Jacques, et d'autre part, je pourrais me retourner contre le petit conseil, car à ce moment-là, il a déjà des difficultés économiques avec Genève. Il éclaira bientôt la guerre de Genève parce qu'il veut faire à Versoix un établissement personnel pour lutter contre le commerce genevois. Alors ce sera magnifique, il sera débarrassé de Jean-Jacques en l'ayant fait tuer par le petit conseil et il pourra se retourner contre le petit conseil en disant « Mais moi, j'étais toujours Jean-Jacques, c'est ce qu'il va oser écrire à je ne sais plus quel correspondant. Toutes les fois que ces messieurs du petit conseil me parlaient de Jean-Jacques, je le défendais !» Il arrive à le faire alors qu'il essaye de le faire tuer. Je referme ma parenthèse, je reviens à 1871 où nous étions quand Jean-Jacques essaye de faire des lectures des confessions à Paris. Alors, dans le Philopédie, dans le milieu, Diderot, on est inquiet. On a peur que Jean-Jacques en dise trop. Diderot ne peut pas apparaître en personne. Alors, il va déléguer Madame d'Épinay, qui est brouillée avec Jean-Jacques depuis quelques années. Et c'est Madame d'Épinay qui va aller, comme on dit, à la police. Elle va aller trouver Sartine, qui est le lieutenant de police. Lui dire, Et vous savez que Rousseau, qui n'a pas le droit, est à Paris. Oui, dit le lieutenant de police, je sais. C'est le prince de Conti qui le protège. Oui, mais savez-vous qu'il organise des lectures publiques, des conventions? Ah non, ça je savais pas, dit Sartine. Nous allons y mettre fin. Si bien Jean-Jacques est averti très discrètement par la police, qui ne devrait avoir en fait aucun rapport direct avec lui, averti qu'il peut continuer à résider à Paris, qu'on ne l'embêtera pas, mais qu'il faut qu'il se taise. Bayon qu'on lui met sur la bouche. Alors comment pourrait-il se défendre? J'arrive à se défendre. Alors il imagine ce livre incohérent et pathétique qu'il appellera Rousseau, juge de Jean-Jacques, ou encore Dialogue. Pour comprendre ce texte, Rousseau, juge de Jean-Jacques, il faut que vous rendiez compte qu'au XVIIIe siècle, les personnes illustres n'avaient pas un visage connu comme elles ont un visage aujourd'hui. Ça, il y avait pas de photographie dans les journaux. Par conséquent, le scénario qu'il a maintenant Jean-Jacques n'est pas absolument impossible. Lui, Jean-Jacques Rousseau, personnellement Jean-Jacques Rousseau, se promenant dans un endroit public, est abordé par un monsieur qui lui... ces conversations. Et la conversation vient sur ce monsieur Jean-Jacques Rousseau. Et l'interlocuteur ne sait pas si c'est à Rousseau qu'il parle. Et le Rousseau qui ne veut pas se démasquer dit, oui, je l'ai bien connu, Jean-Jacques Rousseau, vous savez, je peux vous donner des détails sur lui. Et il a essayé de se défendre par personne interposée. Mal construit, mais comme je vous le répète, frémissant et pathétique. Bon, une fois qu'il a essayé ce livre, qu'est-ce qu'il peut en faire? Il ne peut pas en donner lecteur public, c'est interdit. Il ne peut pas publier, puisqu'il est sous le coup d'un décret d'arrestation, et qu'il faut, comme vous le savez, une autorisation royale pour imprimer quoi que ce soit. L'autorisation royale, il n'a même pas la possibilité de le demander, puisqu'il ne devrait pas habiter Paris. Alors, savez-vous ce qu'il a imaginé? Le 23 février 1976, il va à 2h de l'après-midi entrer dans l'église romaine de Paris, lui, protestant. Pourquoi à 2h? Parce que l'église est vide à ce moment-là. Il n'y a même pas de chaise, il n'y a pas de curé, rien. Et il regarde s'il y a moyen de pénétrer dans le cœur. Parce qu'il a l'idée de venir avec son énorme manuscrit, qu'il a tellement bien recopié, ça il a mis la poudre d'or pour sécher, il a mis de la non-pareille bleue pour ficeler ses petits lots de pages, et le lendemain, à 2h, je m'amènerai du titre, si personne ne me voit, et je déposerai le manuscrit de mes dialogues sur le maître-autel, au pied de la croix, comme une espèce de placette, c'est-à-dire, Seigneur, occupez-vous de Félix, je sais pas quoi en faire. Il avait repéré qu'il y avait une issue, en effet, pour entrer dans le cœur, il lui retourne le lendemain, comme il avait dit, 24 février 1976, 2h de l'après-midi. Et naturellement, il n'avait pas vu la veille, il n'avait pas vu, simplement pas vu, qu'il y avait une barrière, et cette barrière était ouverte, qu'il était des deux côtés du cœur. Et maintenant, cette barrière se trouvait refermée. Telle est l'état de fait, n'ailleurs que Jean-Jacques se persuade, cette barrière vient de surgir contre lui, que Dieu se décide contre lui, et qu'il ne pourra même pas faire cette supplique qu'il avait l'argent de faire. Il habitait à ce moment-là, au 4e étage, sur l'ascenseur d'une maison pauvre de la rue Plâtrière. Thérèse, qui l'a épousé depuis 67, le voir entrer avec son manuscrit, est épouvanté de voir qu'il jette par terre, c'est même pas ce manuscrit pour lequel il avait tant travaillé. Et il paraît qu'il se met la tête dans le coude et qu'il se pleure sur sa table. Thérèse est très impressionnée par son mari, c'est tout de même Jean-Jacques Rousseau, elle ne dit rien, est encore plus effrayée lorsqu'il le voit qui sort de sa prostration pour prendre sur sa table qu'il avait toujours de très belles feuilles de papier blanc parce que son métier, son job, son métier, son gagne-pain, était un copiste d'une usine à 50 centimes la page, qui était bien payé, qui lui permettait de vivre à peu près. Bon, alors le gars qui prend ses feuilles de papier, il y en avait tout un stock, et avec un ciseau qu'il a emprunté à sa femme, il découpe, vous m'entendez, il découpe 600 petits rectangles de papier dans six grandes feuilles. J'en ai vu deux qui sont conservés aux archives nationales, 18 centimètres sur 10 à peu près. Hein. Et comme il n'y a pas de machine à écrire, 600 fois, Jean-Jacques va écrire sur ces bouts de papier, appel à tout français, aimant encore la justice et la vérité, et il va essayer en 50 lignes de résumer tout ce qu'il avait voulu dire dans ses confessions et dans les dialogues, puis ça empêche de le dire. Et une fois qu'il a écrit 600 fois son petit bout de papier, vous savez ce qu'il fait? Il demande une provision, enfin le cabas de sa femme, et il descend rue Plâtrière, donc Plâtrière c'était une rue pavée, avec le ruisseau au centre, il n'y avait pas des bouches sur les côtés, et Rousseau, oui, Jean-Jacques Rousseau, avec le cabas de sa femme, arrête les passants pour leur donner son petit bout de papier, ça sent très. 64 ans, Rousseau, il en est là. Ils l'ont eu, hein, ceux de l'encyclopédie. Ils avaient décidé de crier au fou derrière lui pour le retirer toute audience. Mais ils ont triomphé au-delà de leurs espérances, puisqu'ils l'ont rendu fou. Vous rendez bien compte que ses gestes sont incoordonnés, qu'en plus il a sauvé une sorte de visée obsidionale, qu'il voit des imposteurs, qu'il voit des traîtres et des espions partout autour de lui, alors qu'il y en a moins, qu'il ne croit. Il est dans une espèce de cage ardente et ronde, enfin il est pris dans une cage de feu, il ne peut pas sortir. 3 semaines, un mois peut-être, après ce que je viens de vous raconter, après cette exhibition de Jean-Jacques dans les rues, camelot donnant son bout de papier, Jean-Jacques qui avait cru qu'il n'écrivait plus rien se remet à essayer. Il appelle ça les rêves du promeneur solitaire, et dès la deuxième page du promeneur solitaire, il y a ceci de sa main, un plein calme est redescendu dans mon cœur. Oh. faut débourrement changer. Parce qu'il est un mi-feu, celui que vous aviez vu dans la rue. Et puis maintenant, un plein calme, laissez-moi dans mon cœur, et il va faire et être ce promeneur sanitaire que vous savez. Il y avait donc une issue de la cage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la cage de feu, oui, il y avait une issue. Il y avait un chemin de fuite, un chemin vertical, un chemin de fuite et d'envol. Il n'y avait pas un geste à faire, voyez-vous. Il n'y avait rien qu'un consentement à donner. Jean-Jacques, le chrétien Jean-Jacques, qui deux fois dans les essais de la montagne, il dit « Je suis chrétien », est un homme qui prononce probablement les paroles consacrées de ce qu'on appelle l'acte de charité. Et dans l'acte de charité, les croyants disent à Dieu qu'ils l'aiment par-dessus toutes choses. C'est toujours faux. C'est jamais vrai. Il y a toujours quelque chose ici-bas qu'ils vont préférer à Dieu, vous savez. Et Jean-Jacques s'est aperçu qu'il y avait au moins une chose qu'il préférait en effet à Dieu, c'était sa réputation. Il n'acceptait pas qu'on dise qu'il est un salaud. D'ailleurs, c'est un consentement à donner, c'est-à-dire que Jean-Jacques consent maintenant. Il dit, ben oui, c'est possible, quoi. Tant que mon nom restera encore dans la mémoire des hommes, on dira que Rousseau est un certain talent, mais c'était un être immonde. Et ben tant pis. Je suis ce que je suis, et Dieu me jugera. Alors à partir du moment où Jean-Jacques a fait cette dernière acceptation, un plein calme, en effet, est redescendu dans son cœur. Alors c'est là où je reviens à Voltaire. Pour essayer de vous expliquer l'immense distance, enfin la contradiction absolue qu'il y a entre Jean-Jacques et Voltaire. Jean-Jacques est un homme qui parle de la nature de l'homme, que je vous ai dit tout à l'heure. La nature de l'homme, dit-il, c'est que, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une présence de l'infini. Notre vrai moi n'est pas tout entier en nous, voilà ce que Jean-Jacques va écrire. Il est passé en reprenant la pensée de Pascal, puisque Pascal dit « l'homme passe l'homme infiniment ». C'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement humain, mais l'homme est demi-divin. Il y a une étincelle de Dieu et c'est ça qui nous constitue. C'est cet appel, cet appel d'air, si vous voulez, qui fait notre grandeur. Nous sommes abouchés à Dieu, nous sommes convoqués par Dieu, et c'est ça qui fait notre substance. Si l'homme est une vibration, comme la matière est une vibration, c'est cette vibration de Dieu qui nous constitue. C'est Voltaire, lui, qui est fini. Voltaire, dans les petits vers qu'il adresse à Madame du Dessin, dit que sommes-nous d'invisibles marionnettes qui passons si rapidement de polichinelle dans le tiroir, comme il fait, de polichinelle au néant. Rien, nous ne sommes rien. Insignifiance de l'homme. Mais il va beaucoup plus loin, Voltaire, puisqu'il écrit ceci, ici, que je sais par cœur, le plaisir est l'objet, le devoir et le but, bien entendu, le plaisir, pas le bonheur, il dit, bonheur c'est une idée fausse composée de quelques éléments de plaisir. Le plaisir est l'objet, le devoir, tu vois, et le but de tous les êtres raisonnables. On nous fait admirer Candide, que j'admire, c'est un admirable texte, c'est bien écrit, vous savez, hein, il avait un nom du style exceptionnel, Voltaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Candide? À la fin, ça veut dire, cultive votre jardin. Et il faut entendre l'explication que Voltaire en donne lui-même. Il explique à ceux qui veulent l'entendre que le monde est un chaos plein de sang et d'horreur, que les malins gagnent. Il s'agit de cultiver le jardin, faire aboutir, enfin aborder sa barque personnelle dans un endroit tranquille. Ben moi j'ai réussi, c'est Voltaire, à faire manger tout ce qu'on veut, comme délice de la bouche et de l'ameublement. J'ai un petit carrosse à l'italienne, tout doublé de soie, avec trois glaces, on ne sait pas quoi faire, de quoi faire crever de jalousie les confrères de l'Académie française, dit-il. Et il ajoute, le monde est en train de se déchirer, nous autres, vivamus et vivamus, buvons et vivons. C'est ça qu'il utilise en jardin pour Voltaire. Alors je comprends que le 18 Floréal en deux, à la tribune de la Convention, parlant des principes du gouvernement républicain, Robespierre ait prononcé la phrase suivante pour définir la politique et la philosophie de Voltaire. Je cite par cœur, je le sais. Cette espèce de philosophie pratique, qui réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Alors, l'un et l'autre est la Révolution française. Quel rapport? Oui, deux rapports. Voltaire va être responsable de deux choses à la Révolution française. Il va être responsable, un, de la constitution civile du clergé, et deux, de la distinction de vieillesse pour les citoyens. Constitution civile du clergé, ne croyez pas que Voltaire est un homme qui veut faire disparaître tous les prêtres, non. Les riches n'ont pas besoin de prêtres, mais je sais si les pauvres ont besoin de prêtres, parce qu'un peuple sans religion, et que Voltaire ne sait qu'une horde de brillants. C'est pourquoi, disait Voltaire, il est fort bon, je sais encore par cœur, hein, il est fort bon de faire accroire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Parce que c'est quand Dieu est indispensable pour les imbéciles, hein. Il faut une religion pour le petit peuple, pas pour les riches, pas pour un homme comme moi. Alors, constitution civile du clergé, la constitution civile du clergé inventée par la constituante sera que pour la première fois, les prêtres seront des fonctionnaires. Et ils seront même payés le double de ce qu'ils étaient payés auparavant. À condition, parce que les constituants sont des hommes pratiques, à condition que les prêtres fassent leur métier, et le métier des prêtres, c'est d'apporter aux pauvres l'enseignement de la résignation. Les gens de la Convention sont des gens puissants, sont presque tous des notables, sont tous des gens considérables, et qui disent, bien sûr, il faut un clergé pour que les imbéciles nous obéissent. Voilà la première responsabilité de Voltaire dans la Révolution française. Deuxième responsabilité, Sieyès. Sieyès a inventé ce chef-d'œuvre d'humour noir, c'est la distinction des citoyens entre actifs et passifs. Tout le monde est citoyen maintenant, soi-disant à partir de 89. Mais malheureusement, il y a une distinction entre les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote, et les citoyens passifs, qui n'ont absolument aucun droit. Alors, on se demande pourquoi on les appelle les citoyens. Ceux-là n'ont qu'un devoir, c'est d'obéir. Le citoyen actif et le citoyen passif se distinguera naturellement par ci. Bien. Le citoyen actif, c'est l'homme riche, le citoyen passif, c'est le pauvre. Idée entièrement voltairienne. Tandis que la responsabilité de Jean-Jacques dans la Révolution française, c'est 92. Hein. 92, c'est-à-dire la Révolution, c'est-à-dire l'insurrection, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la République. À partir du moment où Jean-Jacques a trouvé ce plan calme, il n'a plus un an et demi à vivre à peu près. Oui, c'est au milieu de l'année 76, et il va mourir, comme vous le savez, en juillet 78. Je pense à deux de ses pires ennemis. Je pense à Maritain, qui en 1823 avait écrit Trois réformateurs, avec un chapitre affreux contre Jean-Jacques. Et je pense à ce Gilles Lemaître que j'ai cité tout à l'heure dans ses conférences de 1912. Vous vous rappelez quand je l'avais dit, Gilles Lemaître trouvait que c'était un comique énorme, la proposition de Madame de Varins. Et bien l'un comme l'autre, hein, Gilles Lemaître et Maritain, lorsqu'ils arrivent aux 18 derniers mois de la vie de Jean-Jacques, leurs armes leur tombent des mains. Et l'un comme l'autre disent qu'il y a beaucoup de noblesse dans ces 18 derniers mois de Jean-Jacques. Il y en a un qui parle et il a raison. D'autant plus de grandeur. Et l'autre qui va jusqu'à, je n'irai pas jusque-là, reflète sainteté. C'est vrai que c'est pas mal, étant donné que Jean-Jacques, à la fin de sa vie, va donner raison à Pascal. Lequel Pascal, vous savez, dit dans un texte et dans des pensées, tout le malheur de l'homme, c'est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre. Jean-Jacques est très souvent seul dans sa chambre, parce que Thérèse, elle s'embête avec lui, elle va avec les voisines, elle bavarde, il est tout seul. Il aime bien rester seul dans sa chambre, précisément parce qu'il sait qu'il n'y est pas seul. Jean-Jacques va s'amuser à herboriser, figurez-vous que j'ai la chance de posséder un tout petit fragment de l'herbier de Jean-Jacques. Ce sont quatre petites mousses qu'il avait cueillies sur une route et il a indiqué derrière la référence du Linnaeus. Et Linnaeus est le grand botaniste et il dit c'est le numéro 10 du Linnaeus. On m'a donné ça, quand je ne vois qu'il l'a donné, c'est un cadeau éclatant. J'ai depuis 40 ans chez moi. Lisez bien la cinquième romade du Rêveur solitaire. Vous verrez que si Jean-Jacques aime herboriser, ça l'occupe, ça lui paraît intéressant, toutes les herbes sont différentes, il a une arrière-pensée. Et pour faire comprendre l'arrière-pensée de Jean-Jacques herboriste, je vais citer quelqu'un à qui Jean-Jacques ressemble bien un peu, Claudel. Claudel dit que le privilège de l'homme, c'est la liberté. Mais que la liberté, c'est terrible. C'est le pouvoir de dire oui ou de dire non. Ta vie, c'est l'idée, Claudel. Les pierres, les arbres, les herbes, ils sont dans un état de comparution et d'attente. Les choses de la nature sont ce que Dieu les a faites et elles sont là, dans cet état d'adhésion. Eh bien, c'est la contagion de ce muet amour que Jean-Jacques va chercher dans les champs. Le lundi du bac, 1978, Bernard et Saint-Pierre, qui étaient son camarade, qu'il avait bien, vient chercher. Il est beau ce jour-là. Bernardin a monté les quatre étages de la rue Batrière pour aller le voir. J'aime beaucoup la tête de Bernardin qui dit pour aller voir Jean-Jacques dans son petit ménage probe et bien tenu d'ouvrier. Son petit ménage probe et bien tenu d'ouvrier. Bon, il lui dit on va faire une balade, Jean-Jacques est toujours prêt à marcher. Et Bernardin lui dit, tenez, on va monter aujourd'hui, c'est très beau, jusqu'au Mont Valérien, sommet du Mont Valérien. Le Mont Valérien est aujourd'hui orné d'une caserne, mais à ce moment-là, il y avait un couvent. Et un couvent qui n'était pas encore désaffecté, il y avait des religieux. Si bien dans l'après-midi, lorsque Jean-Jacques et Bernardin arrivent à la hauteur du couvent, ils entendent quelque chose, un bruit qui sort du couvent, ça chante là-dedans. Oui, c'était le lundi de Pâques et les religieux chantaient des psaumes. C'était les mêmes psaumes, vous savez, que Jean-Jacques avait chanté lorsqu'il était gamin avec son père, à Saint-Gervais ou à Saint-Pierre. Et Bernardin est un peu étonné de ce que ces protestants lui disent en tronc. Alors Jean-Jacques rentre, il se met au fond de la chapelle, il écoute, peut-être murmure-t-il lui-même ces psaumes qu'il connaît. Et lorsqu'il sort, je vous cite Bernardin Saint-Pierre, là aussi je sais par cœur, lors de sortie de l'église, M. Rousseau me prit le bras et me le serrant fortement, il dit,